Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en ce mardi soir. On va parler football, s'amuser, se divertir, s'informer autour de cette planète qu'on aime tant avec Alicia Dobie autour de la table. Bonsoir Alicia.
Bonsoir Greg. Bonsoir à tous. Ça va très très bien.
À vos côtés Olivier Bossard, costume 3 pièces, à Calabosse. Bonsoir Olivier, comment ça va?
Salut Greg, ça va.
Incroyable. Bonsoir Benoît Trémoulinas.
Bonsoir Greg.
Benoît, coincé dans les intempéries à Paris, le périph, tout ça, il va arriver. Hein, pas de doute. De l'autre côté, elle rigole aux blagues de son mentor. Bonsoir Laurie de l'Hostal.
Je suis tellement content de le retrouver. Mon mentor, peut-être pas, mais c'est mon.
Mais bonsoir quand même, Laurie.
Mon meilleur coéquipier. Bonsoir.
C'est sympa pour tous les gens qui ne sont pas Ludovic Obraniak à ses côtés, généralement.
C'est comme ça.
Bonsoir Ludo Obraniak.
Fais des choix.
Bonsoir. Ça ne me surprend pas beaucoup. Hein. C'était déjà le cas
dans les vestiaires.
Lorsqu'on était en carrière.
Vous voulez qu'on lui mette une pénalité financière?
Ça me dérangerait.
Bonsoir mon petit hipster. Comment il va, Adrien Courrouble?
Très bien, et vous?
Vous êtes
hipster,
chic.
Nouveau bien.
Bah, vous êtes bah, un ouais, petit père New Wave. Voyez-moi ça, j'aime hipster. Bien. Voici tout de suite le sommaire de l'émission. De quoi allons-nous parler avant une grande soirée qualifier ce soir sur la chaîne Équipe. France Chili, les dernières infos, tout ce qu'il faut savoir. On retrouvera à Marseille Bertrand Latour, la compo, la météo et bien sûr le retour d'Alexis Sanchez. Ce sera avec Alicia. On en parlera. L'attaque, qui attendez-vous le plus? C'était il y a Mbappé qui n'a pas marqué contre l'Allemagne. Il y a Randal Kolo Muani qui fait son retour devant et qui joue peu avec le PSG. Puis Olivier Giroud, aussi titulaire. Alors, on attend qui le plus ce soir? Il y a du beau monde. Et puis derrière, quel défenseur titulaire à l'Euro? On peut se poser des questions avec qui joue le plus gros. Une défense Théo Hernandez, Konaté, Saliba et Klose. Voilà, et les choix sont différents. Il y aura du débat ce soir. Je n'oublie pas, bien évidemment, comme nous sommes mardi, le replay d'Antoine Pinault, le marquage à la culotte de Jonathan O'Donnell. On jouera, ce sera un poker face d'ici quelques minutes. Et puis, il y aura également le hat-trick et le zap. Émission un petit peu plus courte, on termine à 20h30, puisque derrière, il y aura les qualifiers pour savoir qui ira en barrage, évidemment. Puis plein de matchs à suivre, notamment des matchs amicaux. Beaucoup de belles affiches à suivre sur la chaîne L'Équipe, le bingo.
Bingo.
Il est toujours là. Et évidemment, quand Benoît Trémoulinas arrivera, il ira, c'est logique, sur le banc pour un bingo de retard. Voici l'indispensable du soir. Et nous prenons la direction de Marseille pour retrouver Bertrand Latour, qui est notre envoyé spécial, comme d'hab, auprès des Bleus. Bonsoir Bertrand, merci d'être avec nous, vous êtes dans la salle.
Bonsoir
de presse.
Bonsoir tout le monde.
Qu'est-ce que vous êtes chic, what else Bertrand Latour ce soir?
Oui.
Il pleut des cordes à Paris, quel temps fait-il à Marseille? Point météo pour savoir si on peut jouer au foot dans de bonnes conditions.
Et justement, Greg, vous faites bien de me lancer là-dessus. Benoît Trémoulinas en fait les frais. Ce sera le cas aussi des supporters, non pas de l'OM, mais de l'équipe de France ce soir qui sont à Marseille au stade Vélodrome, puisqu'il pleut. Il y a des cordes à Marseille. Il y a du vent également. Donc j'ai vérifié mon billet de train. Je suis bien arrivé à Marseille, mais on peut penser qu'on est à Brest.
Vient d'arriver, malgré les intempéries. Benoît Trémoulinas, mesdames et messieurs. Bonsoir Benoît. Non Benoît, c'est pas la peine de vous asseoir, vous allez directement sur le banc. Voilà, ne faites pas l'effort d'aller vous asseoir. Vous allez prendre tranquillement le temps. On n'a pas de pénalité financière, tout ça.
Hidalgo qui
peut ramener la montée. Oui, vous irez. Vous en faites pas. On vous offrira un voyage à Tahiti, vous serez tranquille. Alors Bertrand, maintenant que Benoît est arrivé, on va continuer à discuter avec vous parce que vous avez vu dans le programme de l'émission, on se posera plein de questions avec les copains autour de la table sur l'attaque, sur la défense. Et ce France Chili. Bah, il a de l'importance, mine de rien. Ça va être notre premier thème tout à l'heure. Nous, on l'attend avec impatience. Et j'imagine que les Marseillais également, il y aura une belle ambiance. Parce que c'est l'exception, finalement, l'équipe de France qui se déplace en région. Hein.
Oui, ben justement, vous faites bien d'en parler là aussi parce que on a l'habitude de voir des stades pleins lors des matchs de l'équipe de France, que ce soit au Stade de France ou à plus forte raison en province, dans des stades qui sont un peu plus petits. A priori, ce soir, ce sera pas guichet fermé. Les gens sont sans doute peut-être plus focalisés sur le Marseille-Paris-Saint-Germain qui arrive dimanche, puisqu'on annonce autour de 49, peut-être 50 000 supporters. Donc on est assez loin de la capacité maximale du stade Vélodrome en temps normal. Donc c'est une information, je trouve, parce que c'est suffisamment rare pour l'indiquer quoi.
Alors l'autre info du soir, c'est évidemment l'équipe en face, le Chili, qui n'est pas une petite équipe, hein, c'est une belle équipe avec des stars, et notamment, Bertrand, vous allez écouter comme nous, Alicia, le retour d'Alexis Sanchez ce soir. Hein.
Alors le Vélodrome ne sera peut-être pas à guichet fermé ce soir, mais il devrait en tout cas réserver un accueil chaleureux, voire très chaleureux, à Alexis Sanchez qui fait son retour 7 mois après son départ officiel de l'OM. Il retrouvera son ancien public, le Chilien qui a laissé un très très bon souvenir auprès des supporters marseillais. Après seulement une saison passée à l'OM, ses 18 buts en 45 matchs, son caractère, son leadership, son exigence. Il a incarné l'OM la saison dernière. Il avait à cœur de montrer que c'était toujours un grand joueur. Un départ aux circonstances floues qui ont laissé un petit goût d'inachevé et une situation qu'il vit assez mal actuellement dans son club à l'Inter. Peu de temps de jeu, difficile pour lui de déloger Lautaro Martinez et Marcus Thuram. Ce soir, il aura sans doute à cœur de tout donner et sa détermination risque d'être décuplée avec sa sélection où il est pour le coup toujours considéré comme un élément extrêmement précieux. 51 buts en 161 sélections pour le Nino Maravilla.
Voilà, tiens, parce qu'on parle de Nino, faites votre tour autour de la table, faites votre arrivée. Benoît Tremoulinas qui vient d'arriver. Non, mais pour tout vous dire, il y a vraiment des intempéries assez impressionnantes. Ça pleut beaucoup, beaucoup, beaucoup et ça roule extrêmement mal une fois de plus dans la capitale. C'est pas votre problème. Alors, Ludo n'est pas content de votre retard. Hein. Il dit que c'est comme dans le vestiaire, ouais, comme à l'époque.
Ils ont fermé une bretelle du périph', on ne sait pas pourquoi et du coup, voilà.
Ça va aller quand même. Bon, Ludo, vous ne parlerez pas. Je vais laisser parler Laurie d'abord.
Merci. Elle va répéter ce que je dis parce que je suis son mentor.
Oui, bien sûr. Mais comme vous n'avez rien dit, elle va rien répéter.
Je vais lui dire ça.
Ben oui, je sais, je l'ai lancé là-dessus. Un mot sur l'auteur d'Alexis Sanchez. Parce que c'est quelqu'un qu'on a regretté du côté de l'Olympique de Marseille, même si là, maintenant, Aubameyang a marqué beaucoup de buts.
Je pense qu'il reste, du coup, à Marseille.
Ben voilà, c'est ça.
Ça fait très... Non, mais ça. C'est dommage pour plein de raisons. On l'a déjà dit plusieurs fois, mais d'autant plus parce que ça ne marche pas très bien pour lui en Italie. Donc on le regrette. Ça va beaucoup mieux ces dernières semaines pour Pierre-Emerick Aubameyang. Mais quel regret. C'est en plus, surtout quand on a su que c'était pas une histoire d'argent, puisque finalement, Aubameyang, manifestement, prend à peu près la même chose à l'OM. Donc,
on a vu les salaires, la masse salariale, elle est quand même très haute.
En tout cas, c'est un événement, son retour. Ça fait partie du piment du match.
Oui, et je pense que ça va être une des belles images du match, parce qu'il va forcément être accablé par...
Acclamé. Oh, le lapsus. le lapsus terrible.
Donc très applaudi par le Vélodrome, mais je pense que ce sera une des très belles images de la soirée.
Olivier Bossard, ça vous surprend que le Vélodrome ne soit pas comble déjà depuis des semaines?
Franchement, oui, je suis très surpris, et encore plus après ce que j'ai vu samedi soir du côté de Lyon, où franchement il y avait une ambiance incroyable, le stade était plein. C'est pas si souvent que ça que l'équipe de France se promène en province. Les Lyonnais ont su en profiter. Je suis vraiment surpris que les Marseillais en profite pas plus, en plus notamment pour aller revoir Alexis Sanchez qui quand même a fait les beaux jours de Marseille la saison dernière. C'est dommage, j'espère que ça va pas freiner le président de la Fédé de vouloir continuer à faire voyager un petit peu l'équipe de France en province. C'est surprenant. Ouais.
Alors on va parler de l'attaque et de la défense, parce qu'évidemment il y a beaucoup de points à relever, de points à soulever, d'interrogations et des avis différents. Bertrand Latour, vous aviez été le premier à nous trouver quasiment la compo du match contre l'Allemagne. Pareil pour le Chili, on s'attend à la compo annoncée dans le journal ce matin. Est-ce que vous nous annoncez également depuis quelques heures?
Ouais, c'est ça, c'est la même chose. Il n'y aura pas de surprise a priori. On verra lors de la causerie. Mais en tout cas, on va partir sur 9 changements par rapport au match face aux Allemands, avec retour de Mike Maignan dans les cages. Pour ce qui est de la défense, de droite à gauche, Jonathan Clauss, William Saliba, Marseillais, ex-Marseillais, Ibrahima Konaté ainsi que Théo Hernandez. Pour ce qui est du milieu de terrain, Tchouaméni reconduit. Avec lui au milieu de terrain, partenaire du Real Madrid, Eduardo Camavinga. On va retrouver également Youssouf Fofana. Pour ce qui est des attaquants, de gauche à droite, Kylian Mbappé, Olivier Giroud et Randal Kolo Muani.
On rentre pas dans le détail des joueurs, parce qu'on va y aller dans un instant, puis on parlera de l'importance du match comme premier thème. Un mot sur le nombre de changements, Ludovic Obraniak. 9 changements de la part de Didier Deschamps, c'était attendu, c'est logique en dernière liste avant l'Euro?
Oui, c'est assez logique, je pense qu'il a une idée assez précise de son 11 de départ, en tout cas il a 2 joueurs prêts à mon avis, c'est ce qu'il fait.
Pour l'Euro vous parlez?
Oui, pour l'Euro, donc là il y a une petite revue d'effectifs qui permet de revoir des joueurs. William Saliba, peut-être, est un garçon qu'il a envie de voir. Randal Kolo Muani, peut-être, par rapport à sa période parisienne, de le voir aussi dans un autre contexte, et celui de l'équipe de France. Est-ce qu'il peut apporter, justement, sa pierre à l'édifice? Non, ça me paraît assez... Et puis aussi, peut-être que le match contre l'Allemagne... alors, je pense que c'était déterminé déjà comme ça, hein, dans la tête de Didier Deschamps.
C'est pas une réaction, c'est juste une...
Non, je pense que c'était
peut-être pas Mbappé.
On le connaît, il est dans l'organisation, Didier Deschamps. Ça m'étonnerait comme ça qu'il ait changé du jour au lendemain. Et il a dit qu'il faisait attention aussi au temps de jeu. Je pense pas que le match de l'Allemagne, même si on en parlera après, il y a une petite incidence, mais pour lui, je ne pense pas.
Benoît, vous avez connu ces rassemblements, les deuxièmes matchs après les premiers matchs qui étaient censés être plus cruciaux. D'ailleurs, on se demandera dans un instant si ce match devient crucial contre le Chili après la défaite en Allemagne. Un mot sur ce turnover, quand on est joueur au sein de l'équipe de France, qu'on est là dans le groupe, on n'a qu'une envie évidemment, c'est de jouer. J'imagine aussi que ça fait du bien aux troupes.
Oui, c'est plutôt logique, cette revue d'effectifs. Ça permet aussi à certains joueurs d'engranger d'expérience. Je pense notamment à William Saliba, qui fait une saison incroyable du côté d'Arsenal. Mais il a besoin de ce match référence en équipe de France. Ça met du temps, comme ça met du temps aussi pour Upamecano. Il faut qu'on s'en souvienne aussi. Il y a aussi des joueurs qui doivent aussi valider leur place pour l'Euro. Hein. Il y a certains joueurs qui ne sont pas sûrs d'y aller. Je pense notamment à Jonathan Clauss sur le côté droit. Qui doit encore faire ses preuves parce que du côté de l'Olympique de Marseille, il a une période assez creuse. Il revient plutôt bien avec Jean-Louis Gasset, mais il doit encore prouver en équipe de France. Randal Kolo Muani aussi, il est en difficulté du côté de Paris Saint-Germain. On sait très bien que Didier Deschamps l'apprécie énormément, mais lui aussi devra montrer un autre visage que celui du Paris Saint-Germain. Donc je pense que c'est aussi une revue d'effectifs et aussi pour certains joueurs de valider leur place à l'Euro.
Bon, voilà pour ce premier point sur l'équipe de France. Dans un instant, on se demandera si ce match sera crucial. Après, Chili, Bertrand Latour, vous allez rester avec nous pour le débat. Une dernière info concernant, je ne sais pas moi, la météo. C'est fait, l'ambiance, c'est fait, Alexis Sanchez, c'est fait. La compo, on peut se lancer dans le hat-trick. On vous retrouve dans un instant. Vous avez encore un petit truc, dites-moi.
Vos désirs sont des ordres et j'ai très bien déjeuné ce midi, des fruits de mer, c'était très bon.
Ah, écoutez, là, c'est une double info. Merci pour le compliment, ça me plaît, je prends. Et bravo pour les fruits de mer. Avant le hat-trick, on va faire un détour par la Géorgie. Puisque vous le savez, ce soir, c'est soirée qualifiers. Des matchs amicaux, mais également la fin des barrages. Voie A, voie B, voie C. Pour savoir qui ira dans le groupe de la Turquie, du Portugal notamment. Et nous sommes en direct. C'est sur l'équipe live également à retrouver. La soirée, c'est dès 20h35 pour nous. 0-0 entre la Géorgie et la Grèce. Dès qu'il y a quelque chose d'important, on fera une alerte, on verra régulièrement.
Géorgie de Willy Sagnol,
oui, la Géorgie de cette formation. Willy Sagnol,
et puis 2021.
Côté Azé également du FC Metz. Voilà pour cet indispensable. On prend tout de suite la direction de la voix suave d'Adrien Kouroubi. En musique, le hat-trick, à vous Pépère.
Et on va commencer ce hat-trick par la petite erreur défensive qui va coûter cher aux Bermudes. C'est face à la Guinée, match amical. La passe en retrait vers le gardien qui va saisir du ballon de la main. Vous connaissez la sanction, Ludo Bragnac, vous connaissez les règles du foot. Coup franc en direct dans la surface de réparation. Et regardez comme il va être bien fait le coup franc, la combinaison. Hop, c'est pas moi qui tire, c'est pas moi non plus, ça va pas moi de toi, ça va être lui. Hop, et c'est dedans. Bien joué, de la part des Guinéens.
Bien joué.
Combinaison
qui fait plaisir à l'entraîneur guinéen.
Ça
impose 5 contre Bermude. Malheureusement, on ne peut pas tout avoir, Greg. On a tout essayé, on a tout cherché, mais ça, on aura le ralenti. En revanche, sur ce but des Pays-Bas, U23 face à la Moldavie, c'est Milan Maonef. Olivier est magnifique. Bon, on n'a même pas le temps de le voir non plus. Il y aura un petit ralenti, ça va. Désolé, Olivier, vous parlerez en revanche sur ce but à la Olivier Tom. Tiens, Versailles, boum, 93e minute face à Nord, but absolument sublime, signé Jordan Mendes Correa. Et là, vous aurez deux ralentis pour le décrire.
C'est peut-être un but qui comptera au moment où on remettra le prix Puskas. Hein. Franchement, il peut tout à fait rentrer dans la...
Et qui comptera aussi pour la lutte pour le maintien, dans parce que ce point du nul fait du bien à cette équipe de Versailles qui est 10e de national.
J'aime bien quand il met un petit point Puskas, l'homme de France Football.
Voilà, bien sûr.
Ça, les prix, toutes ces choses-là, il est bien. Non, je sais que c'est pas vous, mais vous êtes... D'ailleurs, je vais bientôt recommencer mon bingo, le point Ballon d'Or, Olivier Bossard. Hein. Ah, on commencez à gratter des infos. Il va falloir que vous soyez là parce que je vais commencer à vous demander qui est en tête du Ballon d'Or, tout ça. Il va falloir nous lâcher des infos, mon petit pépère. On va écouter Kylian Mbappé, qui était en conférence de presse, qui attend une réaction de ses troupes également, après la défaite contre l'Allemagne.
C'est sûr qu'on devait avoir un autre visage. Maintenant, le match, il est passé, ça c'est une vérité. Et on a l'objectif de montrer une réaction demain. Et ça, c'est la vraie vérité, parce qu'on ne peut pas changer ce qui s'est passé, mais on peut changer ce qui va se passer demain. Donc c'est l'objectif, toujours regarder devant, mais prendre conscience que ce qu'on a fait, ce n'était pas suffisant.
Voilà, donc ça va, le bar est ouvert, ça se passe bien, tout le monde est bien. Mais des cacahuètes, on reste à l'eau, hein, en revanche, évidemment, parce que faut attendre jusqu'à 20h30. Je vous pose la question, est-ce que ce match devient crucial en vue de l'Euro après la défaite contre l'Allemagne? Est-ce qu'il y a une répercussion? Oui pour Alicia, oui pour Olivier Bossard. Eh non, il nous souligne, mais c'est notre Molinas. Il y a un petit nom de la part de Laurie, crucial, un peu exagéré. Oh, vous le connaissez un peu, Ludo. Et non pour Adrien Kouroubi. Alors, Benoît Tremolinas, non, c'est pas crucial. Qu'importe la défaite en Allemagne, on oublie tout. C'est pas grave, ça compte pas, quoi. Alors, ce soir, on perd 8-0, c'est pas grave, c'est pas crucial.
Est-ce que l'équipe de France perdra 8-0, Greg?
J'en sais rien. Je n'ai pas dans les boules de cristal comme vous, Benoît. J'ai pas votre talent de pronostiqueur.
On va pas faire un mingle.
Non.
Hein, ok.
Allez-y, hein, tentez votre chose.
Non, mais déjà, concernant l'Allemagne, effectivement, l'équipe de France a manqué de beaucoup de choses. Mais ça reste un match amical. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Lorsque c'est un match
chez
officiel...
Chez vous contre l'Allemagne.
Lorsque c'est un match officiel, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est pas la même préparation mentale, c'est pas la même chose. Alors oui, c'est toujours bien de gagner, c'est toujours bien de montrer des choses, de valider aussi des choses pour l'entraîneur, mais ça reste un match amical. Et ce match face au Chili, voilà, il y a une grosse revue d'effectifs, il y a 9 joueurs qui vont rentrer. On va pas juger ce match du Chili par rapport à cette préparation à l'Euro. Par contre, où on commencera un petit peu à se poser des questions, c'est sur ces deux matchs de préparation avant l'Euro. Là, il y aura des choses qui se mettront en place, il y aura une équipe titulaire qui se dégagera, et là, on aura des enseignements un petit peu à tirer. Et quand bien même, on l'a vu, rappelez-vous de la Coupe du Monde 98, les matchs de préparation, ça avait été une catastrophe, l'équipe de France, champion du monde. Non, je pense que l'équipe de France a des valeurs sûres dans cette équipe-là, des Mbappé, des Griezmann, des Giroud, et ces joueurs-là, je peux vous dire, seront présents pour l'Euro.
On regarde le petit point sur les mois de mars de l'équipe de France. J'étais un petit peu surpris, voilà, par la fin de phrase de Benoît. Je pensais que ça allait pas arriver tout de suite.
Attendez, vous voulez dire le que mois de mars a mal fini sa phrase?
Non, c'est pas du tout Benoît ce que je voulais dire, mais je crois qu'il était encore resté sur le périph. Mois de mars
des bleus. Je pas de... vous perturber. Hein,
des bleus de 10 décembre, vous le voyez.
Ce que vous avez.
Et finalement, pour confirmer vos dires, Benoît, parce que moi, je suis juste là pour vous appuyer, juste là pour vous accompagner. En 2014, par exemple, les bleus s'imposent face aux Pays-Bas et ils sont éliminés en quart de finale lors de la Coupe du Monde. 2016, ils vont en finale, il y a 2 victoires en mars, mais en 2018 par exemple il y a une défaite contre la Colombie, alors qu'ils menaient 2-0, ils perdent 3-2 les Bleus contre la Colombie, ils seront champions du monde quelques mois plus tard. D'ailleurs les Bleus ne sont pas les seuls à avoir vécu une contre-performance au niveau des favoris durant ce mois de mars. Il y a la Belgique qui a fait match nul contre l'Irlande 0-0, il y a l'Angleterre, favori ultime de cet Euro, qui a perdu contre le Brésil, l'Espagne également a perdu contre la Colombie, 1-0. On parle du calendrier, effectivement il restera 2 matchs avant l'Euro pour l'équipe de France, le 5 juin et le 9 juin. Comme vous le disiez si bien, mon cher Benoît Trémoulinas.
Merci. Alors, je vais essayer d'enchaîner en étant un petit peu moins perturbé pour le coup. Dans la presse, câlins, là, en revanche, il y a énormément d'attentes. On sent que ce match est particulier, même si vous n'êtes pas tous d'accord en plateau sur l'importance de cette rencontre. On a le sentiment qu'il ne faut pas se louper pour les Bleus. Et en plus, avec une affiche particulièrement excitante pour plusieurs raisons. Plus pimentée que prévu, c'était la une de votre journal entre la réaction attendue après le match catastrophique face à l'Allemagne, le retour d'Alexis Sanchez au Vélodrome, Jonathan Clauss qui retrouve son ancien coéquipier, l'accueil de Mbappé, certains joueurs qui jouent gros, effectivement ce sera plus pimenté que prévu. C'est d'ailleurs cet aspect qu'aborde le Parisien sur les joueurs qui jouent gros, l'heure de faire douter Deschamps. Donc particulièrement pour Clauss, Camavinga et Randal Kolo Muani qui ont une carte à jouer ce soir en vue de l'Euro. On enchaîne avec la Marseillaise qui insiste aussi sur la pression autour de ce match. L'équipe de France en quête de rédemption à Marseille. Presse Océan va encore plus loin. Le rebond est obligatoire, un rebond obligatoire pour ne pas laisser le doute s'immiscer, écrit le journal local. Et on termine avec Sud-Ouest qui annonce un test de caractère pour les Bleus. Il va falloir en montrer beaucoup plus du caractère ce soir pour faire oublier ce match décevant face à l'Allemagne.
Moi, je vois la peur dans les yeux d'Olivier Bossard. Je vois l'angoisse dans les yeux d'Olivier Bossard. Je vois un homme ce soir qui va trembler des genoux, Olivier Bossard. Ce oui dans votre ardoise, c'est la panique.
C'est la panique totale. Je me dis que... qu'une défaite, une nouvelle défaite après la claque qu'on a reçue de la part de l'Allemagne, en fait, viendrait créer un très mauvais climat autour de cette équipe de France. On était lancé sur une route assez tranquille depuis la finale de la Coupe du Monde, sans heurts, sans rien. On a eu des qualifications très, très tranquilles, très peinards. Et là, on a ces deux matchs-là, et d'abord de celui de l'Allemagne. Si, alors, une défaite ce soir face au Chili ne viendrait pas tout remettre en cause. Mais il y aurait ce climat qui serait négatif et on viendrait à se poser tout un tas de questions pas très agréables autour de l'équipe de France. Est-ce que cette équipe de France a le niveau qu'on lui prête? Est-ce que cette équipe de France est capable de jouer sans Antoine Griezmann? Je pense qu'il faut absolument gagner pour préserver cet état d'esprit global. Ou sinon, ça va créer pas mal de soucis pour les Bleus de Didier Deschamps.
D'autant que c'est pas l'équipe d'Allemagne que reçoit cette fois-ci la France, c'est le Chili qui n'est pas en très grande forme dans ces éliminatoires d'Amérique du Sud. Ils sont 8e sur 10 équipes et vous le voyez, seulement 2 victoires contre le Pérou et l'Albanie sur les dernières rencontres jouées par le Chili qui a perdu contre le Venezuela, l'Uruguay ou encore l'Équateur.
Ludo, vous avez écrit exagéré, mais ça veut dire que quand même, c'est pas la sérénité absolue.
Non, faudrait pas qu'on fasse une de Palmas, de ne pas voir le doute en nous.
J'ai pensé aussi. Non, mais vraiment, bravo. Voilà. J'ai pensé aussi. Voilà. Je préfère que vous le disiez.
On est connecté.
Non, c'est justement ça. Il faut qu'elle soit riche d'enseignements, cette défaite-là. De pas voir forcément que le prisme du match amical duquel on est passé juste à côté. Il y a des choses riches d'enseignements et celle de face à une équipe technique et qui joue un football avec des petits gabarits et cette qualité de football-là, déjà, si on laisse les maîtres d'œuvre se mettre en scène, ça va être compliqué. C'est déjà un premier enseignement. Moi, le deuxième enseignement du match du Chili, c'est qu'on a toujours du mal face à des équipes qui nous imposent un défi physique. Je vous rappelle que l'Argentine nous a mis au supplice en finale de Coupe du Monde et qu'on a souvent du mal contre les équipes sud-américaines qui nous bousculent un petit peu dans un jeu un peu différent du nôtre. Donc j'ai besoin d'une équipe qui est déjà dans le rebond par rapport, parce qu'une équipe, elle ne perd pas deux fois de suite, premièrement. Et parce qu'on a besoin aussi de se donner une revanche et de se tester par rapport au voir si on a évolué par rapport à la finale de Coupe du Monde, par rapport au type d'équipe qui vont nous apporter des défis un peu différents.
Ah, attendez, vous avez réveillé la bête.
Ah ouais. Dis-moi.
La dernière fois que l'équipe de France a perdu deux matchs de suite, c'était quand, Ludo ?
C'était il y a longtemps.
2015, Belgique et Albanie. Eh oui. Dernière fois que les Bleus ont enchaîné deux défaites consécutives. Ça serait
Belgique
quand même
Albanie, ouais.
Un inédit.
Oui, ça serait inédit. Mais Laurie, est-ce que finalement, et le nom du joueur a été prononcé ? On a failli poser la question ce soir. Est-ce que finalement tout ça a un sens sans Antoine Griezmann ? C'est aussi un autre axe de discussion. Est-ce que, par exemple, le fait que Griezmann ne soit pas là influe sur le résultat et influe sur votre réponse qui est non ? C'est pas crucial.
Oui, ça peut être un des éléments, mais c'est pas seulement ça. Je pense qu'il est crucial. Je trouve que, vous voyez, le mot est trop fort. Ça met du drame, de l'inquiétude qui, à mon avis, n'existe pas.
C'est pas notre genre.
Et qui n'existe pas dans la tête du Didier Deschamps. La preuve, c'est qu'il a fait les changements qu'il avait prévu de faire. Je trouve que sa compo, si elle se confirme avec ses 9 changements, c'est ça aussi qu'elle raconte. C'est qu'il fait ce qu'il avait prévu de faire, quel que soit le résultat face à l'Allemagne, il fait ses changements. C'est pas crucial, mais en tout cas, il est bien plus intéressant que prévu, c'est sûr, pour un deuxième match de semaine internationale. Moi, j'aime bien la une de l'équipe. Ouais, c'est sûr qu'il y a du piment. On a envie de voir quelle va être la réaction de cette équipe de France, quelle va être... Quel orgueil elle va nous montrer ce soir, notamment les leaders. Donc c'est intéressant. Et puis c'est le dernier match avant la liste. Hein, les matchs amicaux dont on parlait tout à l'heure, ce sera après la liste. Donc il est très intéressant. On a très envie de le voir.
Chipoté, il est presque crucial. Il est
très
intéressant.
On a envie de voir du spectacle, des buts. Et ça m'étonnerait qu'un Kylian Mbappé fasse deux mauvais matchs de suite.
On va parler de l'attaque hein, dans un instant avec Mbappé, Giroud, Randal Kolo Muani. Quel attaquant est-ce que vous attendez le plus ? On sera sur la défense également. Hein, quel défenseur aligné ce soir va jouer le plus gros en vue d'une titularisation à l'Euro, voire même d'une place dans le groupe pour l'un des quatre, parce que pour trois d'entre eux, a priori, il n'y a pas de doute. Mais Benoît, je reviens deux secondes sur Griezmann. On a failli poser comme question, peut-être qu'on aura un débat demain sur ça, sur est-ce que ce n'était pas le moment pour Deschamps de tester autre chose en l'absence de Griezmann, pas rester dans le même système et de se dire, imaginons qu'il y ait un pépin. Il faut que j'ai déjà des points de repère avec mes joueurs et un autre système. C'est Vika Jorasso qui, à votre place, là, disait il aurait fallu tester un autre système en son absence. Qu'est-ce que vous pensez de ça ?
Ou d'autres joueurs ? Ouais, moi, j'aurais bien aimé tester le 4-4-2. Alors, je sais qu'il accorde beaucoup d'importance à son milieu à 3 parce que ça le rassure défensivement, notamment sur la perte de balle. Mais l'équipe de France a la capacité de jouer avec deux attaquants. Regardez Marcus Thuram qui a l'habitude de jouer avec Lautaro Martinez du côté de l'Inter. Moi, j'aurais bien vu un Giroud, Marcus Thuram dans l'axe avec Mbappé et Dembélé sur les côtés. Ça m'aurait plutôt plu. Après, voilà, on sait très bien comment est Didier Deschamps. Il accorde beaucoup d'importance à ce 4-3-3. Par contre, il y a eu des enseignements. C'est-à-dire qu'il a essayé et il a vu que sans Griezmann, ça ne fonctionnait pas, parce que Griezmann, c'est un petit peu l'électron libre qui alimente un petit peu
les
attaquants. Il est devant, il est derrière. Là,
un peu comme Aubameyang au meilleur de sa forme.
Et il est, à la 60e minute, il n'y a plus personne.
Ah oui.
Mais pendant 60 minutes, il le faisait.
C'est vrai. 70.
Allez, 70 si tu veux.
Allez, je coupe la poire en deux à 65. Adieu, j'ai vendu.
Mais ouais, on a vu que voilà, il n'y avait pas dans ce milieu 3 face à l'Allemagne, qu'il n'y avait pas ce milieu qui se projetait vers l'avant et qui était un petit peu le leader technique comme les Griezmann. Donc, c'est quand même des enseignements à tirer.
Bon, je vois que tout le monde est très en forme. On va parler de l'attaque, on va parler de la défense, on va avoir le zapping également dans un instant. On aura le marquage à la culotte avec Jonathan Donnel, le replay d'Antoine Pinot, première et deuxième partie. Mais pour le moment, vous voulez jouer, on veut jouer. Mm-hmm. Voici le Poker Face.
Non.
Bien sûr. Illustration musicale, Lady Gaga, Poker Face. On s'est pas foulé pour le choix de la musique, mais ça correspond évidemment au titre. Alors, le Poker Face, c'est très simple. Vous connaissez le Fight Club, il faut trouver un joueur mystère. Et pour trouver ce joueur mystère, vous êtes aidé de son CV, son premier club pro à son dernier club pro. Là, ce ne sont pas les clubs qui vont vous permettre de retrouver notre joueur mystère, ce sont ses anciens coéquipiers en club. Comme au poker, d'où le mot poker de Poker Face, on va vous proposer un flop, c'est-à-dire trois cartes, trois anciens coéquipiers, du plus ancien au plus récent. Si vous trouvez ce joueur mystère à partir de ces trois anciens coéquipiers, vous marquez 3 points. Personne ne trouve, ce sont des duels, comme au Fight Club. Hop, on offre une quatrième carte. C'est la turn. Et dans ce cas-là, si vous trouvez 2 points. Si personne ne trouve, dernière carte, vous avez 5 anciens coéquipiers. Et là, pour 1 point, avec le coéquipier le plus récent. Je précise également que vous avez le droit à l'erreur, contrairement au Fight Club. Si vous me donnez une mauvaise réponse, vous avez le droit à une deuxième chance. Ça peut vous donner une possibilité de tenter pour 3 points ou pour 2 points et ne pas attendre le 1 point. Évidemment, même si on joue en équipe, interdiction absolue de papoter, de souffler, de tricher.
Jamais.
Nous avons la team Ludo contre la team Benoît. Benoît, Olivier, Alicia. Et de l'autre côté, Ludo, Adrien et Laurie. Nous sommes prêts. Nous allons jouer au Poker Face. Nous recherchons des joueurs, parce qu'il y a un thème, sud-américains qui ont marqué contre la France. Des sud-américains très connus, des stars, qui ont marqué contre la France. Premier duel, Alicia contre Adrien. Pour 3 points, ce joueur mystère a eu pour ancien coéquipier en club. Pour 3 points, Rui Costa, CR7, Rooney. Ancien coéquipier de club, Rui Costa, CR7, Wayne Rooney. Pour 2 points, personne ne trouvera 3 points, vous avez le droit à une erreur. Kylian Mbappé. Vous allez décevoir vos coéquipiers, parce qu'au Poker Face, tout le monde autour là, sauf les deux protagonistes.
Attends.
Et pour un point, je vous propose Adrien Rabiot.
À la Juve.
Allez.
À la Juve.
Adrien, tranquille.
3.
Faut tenter, là.
2. 1. Fini.
Alexis Sanchez.
Non.
Non.
C'était en Real Di Maria. Rui Costa à Benfica, Ronaldo au Real, Rooney à Manchester, Mbappé au PSG, Rabiot à la Juve. Et alors, ce qui est terrible, vous n'avez pas l'image, parce que vous êtes évidemment sur les duels. Ouais. Et les quatre autres étaient là.
Bon, on a dit la soupe au chou.
Faites très bien.
On leur a dit la soupe au chou.
Faites-le.
Ah ouais.
Bon, on va voir s'ils vont être bons maintenant. Olivier Bossard, je vous présente Ludovic Obraniak.
Ah. C'est toujours quand on...
Buteur sud-américain contre la France pour 3 points, ancien coéquipier. Ganso, Alexis Sanchez et Iniesta.
Vidal ?
Non. Mais vous êtes encore en lice, vous pouvez tenter à nouveau. Pour 2 points, il a eu comme coéquipier Marquinhos. On n'a pas fait 3000 clubs, hein, Marquinhos. Et son
Neymar.
Neymar.
Comment
Neymar.
Neymar, Olivier Bossard, il a dit avant. Non, il a dit Neymar, j'ai dit quand, je n'ai pas entendu, il a dit. Bien joué, 2 points. Neymar, Ganso à Santos, Sanchez moi, à Barcelone, trouvé. Iniesta à Barcelone, Marquinhos au PSG, et Koulibaly à Al Hilal. Ça fait 2-0.
Putain,
Benoît, voici Laurie, qui bavarde beaucoup ce soir. Laurie, on est sur une bavardeuse ce soir. On y va. Poker Face, Sud-Américain, buteur contre la France, Benoît contre Laurie. Ses plus anciens coéquipiers sont Cafu, Zanetti et Raoul.
Ronaldo.
Non. Mais c'est pas grave, vous êtes encore en lice. Pour 2 points, si vous voulez.
On peut en dire deuxième si
ouais,
on
peut. Vous avez. Comment ?
Figo ?
Non, mais vous ne pouvez plus jouer par contre. On a le droit qu'à 2 erreurs. Ouais.
Ah ouais.
Benoît, vous êtes seul maintenant.
On a le droit qu'à 2 réponses.
Ouais. Ah. Pour 2 points, vous avez Diego Lugano. On le retourne, mes copains, le 2 points de Lugano ou pas ? Ça bug un peu, me dit-on, mais il devrait arriver. S'il va pas, on va le faire à la voix.
Non, mais il gagne du temps. Là.
Et pour 1 point, Samuel Eto'o. Quand je vais vous le dire, vous allez dire, mais oui, mais c'est vrai que c'est un peu troublant.
Mais oui.
3, 2, un peu troublant. 1,
je
personne là.
Roberto Carlos.
Roberto Carlos, exact, Ludovico Braniac. Palmeiras Inter, Real, Fenerbahce, Anzi, Makachala. Toujours 2-0.
Ah oh ouais.
Duel suivant, Alicia Dobby. Ludovic Obraniak. Nous recherchons des joueurs sud-américains, buteurs contre la France. Leurs plus anciens coéquipiers en club à ce joueur mystère sont Huntelaar, Steven Gerrard et Neymar.
Huntelaar.
Qui est ce joueur? Il a joué en club d'abord avec Huntelaar, puis après avec Gerrard, puis après avec Neymar. Vous pouvez tenter, vous avez le droit à une erreur. Pour 2 points, je vous propose... Comment
Suarez.
Oui, Voilà, j'avais même pas dit pour deux points. Trois points pour vous. Bah, à l'Ajax.
Ah oui.
À l'Ajax, trois points pour l'équipe de Ludo. Mais alors, sur le fil, j'ai l'air retourné Griezmann et Lionel Messi.
Trois points. Pardon pour la.
3-2. C'est serré, c'est tendu. Bien joué, Ludo. Bravo.
Bah oui.
Olivier Bossard, Loredo Lostal. Allez. Ils s'adorent dans la vie, mais ils vont s'affronter maintenant. Duel de vedettes, sud-américain buteur contre la France pour 3 points, ancien coéquipier. J'ai James Rodriguez, j'ai Gaudin et Van Persie.
Falcao.
Oui, 3 points, Olivier Bossard. Falcao à Porto avec Rodriguez et l'Atlético avec Gaudin, à Van Persie à Manchester. Derrière, j'avais Eden Hazard à Chelsea et Mbappé à Monaco. Il aime bien le poker face. Il a plus la logique joueur que club sur le fight, Olivier Bossard. Ça marche aussi, c'est bon. Hein.
Merci Olivier.
Benoît Trémolinas.
Ça doit squatter les cerfs.
Voici votre proie préférée ce soir. Adrien Courou. Mais attention, la bestasse se réveille souvent en fin de partie.
Ouais.
On y va. Ancien joueur qui a eu comme coéquipier Aymar, Xavi et Evra. Pas évident, mais très connu.
Forlan.
Non, mais vous avez encore une possibilité. Parce que je passe à 2 points. Pour 2 points, je vous propose Sergio Ramos. Il n'est pas évident. Et pour 1 point, je vous propose Isco. Mais très sincèrement, je pense que c'est le plus dur du lot. Tentez un truc. 3, 2, 1. Bon, et bah c'était Javier Saviola. Je vous explique. Aymar arrive à plate. Pas évident. Xavi à Barcelone. Monaco à Evra. Evra à Monaco. Ramos au Real et Isco à Malaga. Bah écoutez, on a pris un ancien joueur et un super génie.
Isco cherche au
bon. Attention. Alicia contre Laurie. Joueur sud-américain, buteur contre la France.
Allez Lolo.
Il y a 5-3.
Vas-y Lolo.
Mes anciens coéquipiers sont Ronaldinho.
Allez, on va dire Messi.
Ah oui, bravo. Gérard Piqué, Samuel Umtiti, Lionel Messi. Bien joué. Voilà, c'était à la rapidité. Marco Verratti et Alba.
Bravo.
Alors, ça nous fait combien cette histoire-là au niveau du point?
Il y avait
5-3 et ça fait 8-3, c'est ça?
Ouais.
C'est pas fini. Il me reste 2 duels.
Allez.
Ça peut totalement faire 9-3. Olivier Bossard.
Allez.
Adrien Courrouble.
Allez, Adrien.
Pour 3 points, ses anciens coéquipiers sont Seni, Maxwell et Ben Arfa.
Seni, sans déconner.
Seni Anderson.
C'est pas Seni Anderson.
Attendez.
Je vais passer à 2 points. À 2 points, il est comme coéquipier Harry Kane.
Lucas.
Oui, Lucas Moura. Bien joué, Adrien. Seni à Sao Paulo, Maxwell et Ben Arfa au PSG, Harry Kane à Tottenham. Il y avait Beraldo après à Sao Paulo.
Oui,
et Benoît contre Ludo. Le duel final, regardez là. Il ne veut pas lui laisser.
Beau,
il ne veut pas.
Il est obligé.
Faut que je sorte à 3 demain.
8-5. Soit vous égalisez, Ludo. Il faut répondre à 3 points.
Soit
Benoît, vous avez la balle de match entre vos mains. Donc, à mon avis, il faut tout tenter à 3 points, hein, Ludo.
Allez, Ben.
Tant pis, après, ça ne vaudra pas le coup de trouver à 2 points.
Oui.
Sud-américain buteur contre la France. Vous avez ancien coéquipier Gabriel Milito, Diego Forlan, Diego Costa.
Cavani.
Non.
Ça me tombe
ici. À 3 points, c'est pas évident, mais vous voulez tenter Ludo ou je passe quand même à 2 points pour gagner le duel.
Godin.
Non, vous ne pouvez plus jouer, Benoît. Pour 2 points.
Je suis joueur. Laissez-lui 5 secondes. Bon, s'il égalise.
Non, je l'ai pas.
Pour 2 points, je vous offre Kevin De Bruyne. Et pour
Gabriel Jesus.
Non, c'était pas Gabriel Jesus. Et pour 1 point, Frankie de Jong. Donc j'ai comme club Independiente, l'Atlético, Manchester City et le FC Barcelone où il finit sa carrière. Alors que c'est Manchester City où il explose tout. Attaquant argentin.
Tevez.
Non.
Non plus.
Agüero. C'était. C'est pas là. C'est pas. Ah ouais, Agüero. Le Kun. Victoire et musique pour la team.
Merci.
Il n'y a pas de remettre. votre enjeu au Poker Face. C'est pas comme au Fight Club. Dans un instant, le replay, première partie d'Antoine Pinot, mais tout de suite le zap préparé par William Lopez-Gonzalez.
Lancé et bien lancé de la plus belle des manières, ce France-États-Unis qui sera dans quelques mois le match d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Il n'a pas tremblé, Arnaud Kalimuendo. 1-0 pour l'équipe de France U23 à Sochaux.
David Booker. Alors, qu'est-ce qu'ils vont chercher? La sécurité ou les trois points de KD? C'est manqué, deuxième chance avec la tentative. Il va y retourner. KD repasse par Booker à trois points. C'est manqué. Les Spurs vont s'imposer contre les Suns sans Victor Wembanyama. Et les Spurs qui en saison régulière auront gagné 3-1 contre Phoenix. Quelle victoire!
Est-ce que tu revenais de blessure, tu y croyais, c'était jouable, c'était faisable, tu pensais l'avoir ou tu y allais un peu en mode bon, on verra bien quoi?
Oh non, non, quand à partir du moment où j'ai dit ok, je prends le départ de l'entraînement et de la course, j'étais à 100%. Je voulais pas faire les choses à moitié. Et ouais, je me sentais bien. Je me sentais bien, je me sentais prêt. Et bon, c'est dommage, on n'a pas pu s'amuser pour cette dernière course. Et ouais, avec Marco, on était un peu déçus tous les deux quoi. Donc on a fini en godille parallèle.
Deux partenaires du Stade Rennais. Il a poursuivi Adrien Truffert et il va pouvoir mettre un bon centre, on l'espère, pour l'équipe de France à Cliouche.
Elle est en retrait.
Il va y avoir la frappe d'Antidio. Au bout de ce long ballon où Truffert avait fait la différence sur son côté gauche. La passe en retrait et à la finition, c'est le Lensois qui marque son premier but avec l'équipe de France U23, avec l'équipe de France Olympique, 2-0 pour les Bleuets.
Plus les années passent, plus c'est ancré en moi que je ne suis pas une gagnante. Quoi. Je suis voilà, deuxième, troisième. Et ça a été hyper dur de vaincre mentalement ce blocage, de me dire mais si t'es capable de gagner, parce que je faisais deuxième, troisième devant des filles qui gagnaient le lendemain, ou donc j'étais capable de battre tout le monde, mais pas d'être sur cette première place. Et cette année, j'ai essayé de remettre tout à zéro et de me débarrasser un peu de ces croyances qui sont un peu lourdes et ancrées en nous, et d'y croire, de croire en mes victoires, de croire en mes chances de toutes les battre. Et puis, je pense que mon staff m'a beaucoup aidé aussi, parce que j'ai senti qu'ils croyaient en moi et qu'ils croyaient en cette capacité de victoire pour laquelle moi j'avais de grands doutes.
He's there. Gets the applause from Gael Monfils, who gave that a really good go in that point.
On jouait partout. Et on nous disait hein, avant le match dans le staff des Bleus, alors qu'on va quand même regarder cette action des Américains.
Il faut bien défendre. La frappe! Et ils reviennent dans la partie! Les Américains! Grâce à Griffillo, l'un des entrants.
Qu'il est déjà parti tirer. Il y a le gardien de but dans la surface de réparation.
Oh, attention! Quel but! Incroyable! En mode Soul in Soccer! C'est Mendes! Il est rentré et il marque ce bisou! Un partout!
Oh purée, incroyable! Cet éclair!
Il vient de mettre en danger Patrick Schulte. Et ça repart directement de l'autre côté.
Et attention, bien défendre!
Oh, oh!
Bien défendre! Oui. Sur deux actions. Ouais, alors vous pensez qu'ils avaient fait le plus dur?
Expect a race that opened really early and small groups
and attacking each other and chase back and attack again. And I see a race like this, a crazy race.
Voilà pour ce zap avant de parler vélo et que à travers la Flandre ça démarre demain le retour de Sarah Frotté et du cyclisme sur la chaîne et de parler de l'attaque de l'équipe de France. Regardez, c'est à lui tout seul un trio d'attaque. Viens, viens, rentre, n'aie pas peur, c'est Pierre-Antoine Damcourt. Alors pas du tout, lui c'est Antoine Pinot.
Ouais, bon,
t'as vu ça?
Très bonne blague.
Alors c'est pas comment ça va mon lapin?
Impeccable. Et vous Greg?
Ça va super, oui c'est ça.
On parlait de Raël hors antenne là, pour tout vous dire, on a des belles conversations en tout cas.
Les gens regardent des séries. Racontez nos vies, hein, surtout.
Oui, exactement, effectivement, les off, comme on dit.
Vous embêtez pas, non, regardez le zapping, Antoine Pinot.
De quoi? On est en quelle année là?
Eh ben, on est mardi.
Chirac est président?
Oui,
comment ça se passe? Bon alors tout à l'heure on aura Top Greg. Vous savez, on connaît Top Chef, et là il y a Top Greg. Mais pour l'instant, petit teasing, vas-y. On y va. Et Greg, on les adore de plus en plus. Les intros de Benoît Cossé, c'est un régal.
Vous l'avez vu, l'interview de Dimitri Payet aujourd'hui dans l'équipe. Oui, il s'est vu arrêter, Dimitri. Dimitri, il le dit, la plaie olympique de Marseille ne se refermera jamais. Ça me fait penser à cet animateur qui, lui, n'a pas un champ, mais une émission à son nom, l'équipe de Greg, qui lui aussi fait des sacrifices en partant en week-end, dès le vendredi, à Arcachon, manger des huîtres pour maigrir. Lui aussi, il a une plaie. Johan Rioux, qui ne la fermera jamais.
Ouais, et vraiment gros succès auprès des chroniqueurs. Hein.
Vous êtes un peu le Jean-Louis Gasset de cette émission. Vous arrivez, vous remplacez quelqu'un, c'est mieux qu'avant. Ouais, c'est... plus Jean-Louis que Gasset, mais bon, c'est pas franchement.
Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Enfin, heureusement, entre chroniqueurs, l'ambiance est au beau fixe avec Émile Rossin.
Swan.
Angel Di Maria.
Angel Di Maria. Il n'a joué que 3 matchs contre le Barça avec le PSG.
Je suis contente que t'aies perdu aussi.
Loïc Tanzan. Elle est vraiment très agréable. Elle est vraiment sympa.
Ah, le groupe vit bien.
Quand on a des amis comme ça, la pose en ennemi, hein, j'ai envie de vous dire.
Comme
de
dire l'expression.
J'avais pas calculé parce que je coupe complètement, mais que du coup l'émission durait une heure avec Benoît.
Ah, ben bah, oui.
L'intro derrière en fait.
Il teste son spectacle en fait.
Il fait 19h30, 20h50. Ben bah, voilà.
Il y a un habillage sonore et tout.
C'est intéressant. À tout à l'heure, Antoine. Le replay, Antoine, ce soir, c'est 20h20. Pas se bourrer, on a les qualifiers derrière. Vous êtes prêts hein, pour le montage?
C'était noté.
C'était noté, super. On part à travers la Flandre. Non, pas vous, pas là, pas maintenant. Mais avec Charles-Antoine Nora, qui est notre envoyé spécial, puisque demain, c'est le retour du cyclisme sur la chaîne L'Équipe, prise d'antenne 14h. Ça va frotter. Et derrière la course, c'est le retour du cyclisme et donc de à travers la Flandre. Bonsoir, Charles-Antoine Nora.
Eh bien écoutez Greg, si on prend une course de plus de 188 km, 8 secteurs pavés à franchir, pas moins de 12 monts et côtes à escalader, qu'on agrémente tout ça avec un petit peu de vent, on y ajoute des coureurs de classe mondiale comme Mats Pedersen, Wout van Aert ou encore Julian Alaphilippe, eh bien ça nous donne une recette spectaculaire qu'on laisse mijoter encore quelques heures. Le grand rendez-vous c'est demain à travers la Flandre, c'est la dernière répétition avant le Tour des Flandres. Et puis nous, ben en attendant, on va profiter un petit peu du paysage, du plat pays. Regardez, la Belgique, c'est pas forcément si plat, Greg, et les coureurs nous le montreront dès demain. Il y aura quelques obstacles à gravir.
Merci Charles. Laissez les moutons tranquilles, Charles-Antoine. On n'est pas obligé de, hein, de peler ces pauvres bêtes pour se faire un manteau, même si la météo belge n'est pas bonne. On n'est pas obligé. Voilà. Faut penser au bien-être animal. On va maintenant s'intéresser à l'attaquant. Ce soir, Giroud, Colomani et Mbappé vont être titulaires. Je vous pose la question, quel attaquant vous attendez le plus pour ce France-Chili? Alors, regardons vos ardoises. Vous me dites, pour Alicia, ce sera Randal Colomani. Kylian Mbappé pour Olivier Bossard. Olivier Giroud pour Benoît Trémolinas, Randal Colomani, ben qu'est-ce qu'il y a? C'est le coup du mouton, j'ai l'impression, pour Laurie. On l'a perdu, ouais, c'est ça. Olivier Giroud, ben, il a perdu un deuxième mouton avec les deux Corvagnac. Et Randal Colomani pour Adrien. Bon, bonsoir Olivier Bossard, je viens vous voir parce que là, ils ne sont pas encore prêts à y aller. Donc je vais me reposer sur vous et votre blouson de Hutch. Vous voyez, ça, c'est du recyclage. Ça, c'est bien, c'est de la friperie. Vous voyez, ça, c'est bon. Ça, vous prenez les trucs de vos grands-parents. Ben, ça, c'est bien de faire voilà. Ça. Vous voyez. On va pas chercher ça sur le dos d'une bête. C'est du Sky, bien sûr.
Oui, il est bon.
Alors, pourquoi Kylian Mbappé, dites-moi tout.
Parce que je trouve que, contrairement à d'habitude, il y a pas mal de questions qui entourent son cas à Kylian Mbappé. Hier, il est monté au front en conf de presse. Il a été plutôt bon, comme d'habitude. Mais il a aussi dit que cette défaite contre l'Allemagne était aussi de sa responsabilité. Il a dit que son leadership avait été défaillant. Et c'est quelque chose qui arrive au moment, et encore plus avec son absence, où on se demande si le vrai leader de cette équipe, bah, en finale, c'est peut-être pas Antoine Griezmann. Donc je trouve qu'il y a pas mal de questions qui tournent autour de sa personne. Est-ce qu'il va réussir à élever son niveau de jeu, parce qu'il n'a pas été là contre l'Allemagne? Est-ce qu'il va réussir à endosser ce rôle de capitaine et à réussir à emmener tout le monde avec lui? Et Kylian Mbappé a toujours été performant quand, juste avant, justement, il n'a pas été très bon. Donc, il ne va pas falloir rater celui-là, parce qu'il nous a toujours habitués à répondre tout de suite.
Olivier parlait de leadership et du manque de leadership, notamment des leaders face à l'Allemagne. Il a été critiqué pour ça, Kylian Mbappé, et il a assumé en conférence de presse hier.
Passé, c'était plus que du leadership. Si on devait résumer ça seulement à du leadership, le leadership a été défaillant, ça c'est clair. Après, comme j'ai dit, c'est des indicateurs. Voilà, c'est comme des warnings. C'est attention, mais il n'y a pas de vérité absolue. Je veux pas négliger parce qu'un match amical international, c'est comme j'ai dit, international, c'est il y a rien de plus important que la sélection, mais c'est quand même un match amical.
Il y aura un autre aspect sur lequel Kylian Mbappé sera attendu. Autant on parlait d'Alexis Sanchez et sans doute l'accueil très chaleureux que lui réservera le Vélodrome. Lui, il peut s'attendre à un accueil plutôt froid à 5 jours du Classico. Le Parisien qui prend ça avec beaucoup de philosophie.
Pour être honnête, je comprendrais si je suis sifflé. Il y a un Classico dimanche. Je suis joueur du PSG, donc si je suis sifflé, c'est la vie. Je prendrai pas ça personnellement et ça changera pas ma manière de jouer. Mais si je suis pas sifflé, je serai agréablement surpris. Comme quoi, des fois dans la vie, on peut avoir des bonnes surprises.
Et après 7 ans en équipe de France, Kylian Mbappé jouera pour la première fois au Vélodrome, mais sous le maillot de l'équipe de France. Il avait toujours joué sous le maillot du Paris Saint-Germain. Donc là, peut-être qu'il jouera le Vélodrome sous un autre angle.
Bon, il sera sifflé. On en parlait hier, Laurie. Il s'y attend à être sifflé au Vélodrome. Hier, ça a agacé nos consultants qui puissent être sifflés, parce que l'équipe de France, pour lui, c'est à part. Oui, après, ça fait partie du folklore.
Ça va pas trop le déranger.
C'est autre chose. Hein. Mais vous m'avez parlé de Randal Kolo Muani. Parce que là, quand même, autre Parisien qui va être.
Lui, il va être plus perturbé pour le coup.
Alors, pour le coup, il va jouer gros, quand même, peut-être ce soir. Non pas qu'on ait un doute sur la liste, parce que Deschamps semble l'adorer.
Non.
Mais pour prouver qu'il mérite sa place.
Oui, pour prouver qu'il mérite le soutien de Didier Deschamps, qui est toujours aussi présent. Il est temps pour lui de faire un match abouti. Ça fait tellement longtemps. Alors bon, il y a son faible temps de jeu en club, bien sûr, mais même en équipe de France, on a besoin qu'il nous fasse un match abouti. On a besoin de voir ce qu'il fait de cette confiance de Didier Deschamps, Randal Kolo Muani. Donc j'ai hâte de le voir jouer. J'espère qu'il sera en confiance, parce que c'est pas facile pour lui. Il sait qu'on l'attend. Et puis parce qu'on sait jamais. Oui, on sait qu'il est dans la liste, mais attention à un retour de blessure de Nkunku, attention à un Barcola. Je sais pas. On n'est pas. C'est quand même dans 3 mois. Encore, c'est à la fois très bientôt et dans longtemps. Donc oui, j'ai pas mal d'attentes autour de
un peu curieuse.
J'ai envie de voir comment il va réagir. Je parlais tout à l'heure de la réaction de cette équipe de France. Lui, j'ai envie de voir comment va être son body language. C'est pas forcément de marquer des buts, mais voir quelle assurance il va avoir ce soir sur le terrain.
Et voir comment il va se comporter également en tant qu'ailier droit, parce qu'avec le Paris Saint-Germain, il n'a été aligné et titulaire que 4 fois en tant qu'ailier droit, une fois en Ligue des Champions, 3 fois en Ligue 1, mais pour le reste, c'est 31 matchs, 9 buts, 5 passes cette saison, notre moyenne dans l'équipe, 4,8, c'est plutôt bas pour Randal Kolo Muani, qui cette saison en bleu, plutôt cette année, l'année 2023, en bleu, a joué 4 matchs en tant qu'ailier droit, un seul en tant que titulaire, un but, une passe D. Vous avez souligné ses concurrents, Laurie, les voici, on les voit s'afficher, Ousmane Dembélé, Kingsley Coman, Moussa Diaby, Bradley Barcola, Christopher Nkunku, c'est une concurrence qui pourrait peut-être le mettre en difficulté en vue de l'Euro si jamais il faisait un mauvais match.
Je vais avoir mes deux joueurs qui me disent Giroud, là, Ludo et Benoît, on refile du côté de Marseille, Bertrand Latour est de nouveau avec nous. Rebonsoir Bertrand, on se demandait quel attaquant vous attendez le plus. Vous avez entendu possiblement Olivier Bossard nous parler de Kylian Mbappé, il attendait une réaction, leadership, un but comme il le fait souvent.
Oui, ça se défendait.
Vous avez entendu Randal Kolo Muani qui est le choix de Laurie de l'Hostal. Vous allez entendre après Olivier Giroud avec Benoît et Ludo. Vous attaquez Giroud ou vous voulez prolonger sur vos camarades?
Non, j'ai envie de parler de Randal Kolo Muani parce que Olivier a parlé de Mbappé sur Giroud. Je trouve que c'est un train qui arrive à l'heure. On n'apprendra pas grand-chose ce soir sur Randal Kolo Muani. On parle d'un joueur qui a peu de références en équipe de France. La finale de la Coupe du Monde commence à dater, qui a des références maigres en club cette année au Paris Saint-Germain, puisqu'il est devenu un remplaçant et parfois même le remplaçant du remplaçant, et qu'il est utilisé ce soir à un poste où je pense qu'il est en capacité de produire beaucoup de choses. Plus ça avance et plus je me demande si c'est pas sa meilleure place, parce que le côté, en l'occurrence le côté droit, peut-être même s'il est plus à l'aise à gauche, mais lui permet de, d'utiliser sa vitesse, lui permet de répéter les efforts, et un domaine dans lequel il est performant parce qu'il est, il ne rechigne pas à la tâche. Donc avec moins le poids de devoir nécessairement marquer des buts par rapport au poste de numéro 9. Donc pour toutes ces raisons-là, et dans un contexte pas évident, au Vélodrome, vers laquelle il est réservé, avec un déficit de confiance, bon, j'ai envie de le voir de près. Et j'ajoute, et je terminerai là-dessus, que c'est un poste qui, je trouve, n'a pas été totalement verrouillé depuis quelques mois maintenant. Il y a une concurrence entre Dembélé et Coman, mais on ne peut pas dire qu'il soit totalement incontestable, ces deux-là. Et que, bon, si lui est hyper performant, ça ne se jouera pas que contre le Chili, mais peut-être qu'il y a une place à prendre aussi. Donc j'ai envie de le voir de près.
Merci Bertrand, vous restez avec nous. Alors je vais voir mes deux chefs de gare, parce que vous parlez de train qui arrive à l'heure. Ludovic Obraniak, vous êtes d'accord avec Bertrand sur Giroud, il n'y a pas de surprise? Hier, on se demandait s'il était le grand gagnant en fait de la, du mauvais match de Marcus Thuram, si c'était une évidence qu'il serait numéro 9 des Bleus. Est-ce que ce soir, il joue gros pour prouver à Deschamps que c'est lui officiellement le 9?
Gros, je ne sais pas, mais pour Bertrand et moi, par exemple, ce n'est pas un débat. Mais on le voit que si on pose encore la question, et on l'a posée toute la semaine, c'est que la question, elle est toujours en suspens. Et que même pour Didier Deschamps, qui lance
Marcus, c'est surtout pour lui que ça compte.
Ça, c'est dans la balance. Mais pour moi, ça ne devrait pas être dans la balance. Parce que Marcus Thuram joue à deux à l'Inter de Milan. Donc c'est un poste et un rôle complètement différent. Celui qui, dans un 4-3-3 avec un seul attaquant, peut maîtriser le mieux le poste et nous apporte le mieux, et le pivot gang, et le truc. Et le... Alors même si, il faudra voir en fonction des adversaires. Parce que c'est vrai que si on joue bas, il va falloir qu'on fasse des sprints dans l'autre sens, donc la question se posera. Mais là, de prime abord, quand je vois sa saison avec le Milan AC, il est à 20 unités, 12 buts, 8 passes décisives. Ça en fait le deuxième joueur le plus efficace de la Serie A. Quand on voit que la Serie A est quand même... tu veux y aller là-dessus?
Vous allez compléter juste avec vos propos. C'est 12 en Serie A, effectivement, et c'est même 14 toutes compétitions confondues pour Olivier Giroud. Et comme l'a dit Ludo, c'est 8 passes D pour Olivier Giroud. C'est simple, c'est mieux que Marcus Thuram. C'est mieux que Randal Kolo Muani, qui peut également être son concurrent à ce poste-là. On parle aussi de son âge à Olivier Giroud, mais force est de constater que c'est celui qui a le plus de temps de jeu également par rapport à Marcus Thuram et Randal Kolo Muani en termes de moyenne de minutes jouées par match. En bleu, c'est pareil, 5 titularisations pour Olivier Giroud cette saison contre 4 et 2 pour Marcus Thuram et Randal Kolo Muani. C'est aussi le meilleur buteur, c'est aussi celui qui a le plus gros pourcentage de victoires. Bref, toutes les stats vont en faveur d'Olivier Giroud.
Donc ce soir, j'aimerais bien le voir mettre un doublé, histoire de sceller un
clore le débat.
Histoire de sceller un peu l'affaire et de se dire que c'est notre meilleur atout, en tout cas sur le début de la compétition et par rapport aux adversaires que l'on devrait rencontrer en poule.
Giroud toujours là, comme que les petites cylindrées, ça dure plus longtemps, le dessin de Faro qui cite Karim Benzema. On finit ce thème-là avec vous, Benoît. Vous attaquerez avec la défense, vous terminez avec l'attaque. Trois profils en plus différents. C'est ça aussi qui est finalement assez intéressant. Certains peuvent jouer à plusieurs postes, notamment Randal Kolo Muani, voire Marcus Thuram. Giroud, il a besoin de quoi pour briller, Olivier Giroud? Ça bouge autour de lui?
Il n'a besoin de rien, Olivier Giroud. Et malheureusement pour Marcus Thuram, il y a eu cette défaillance collective. Et lui était dedans, donc on ne peut pas lui en vouloir non plus. Mais il n'a pas forcément marqué beaucoup de points. On sait très bien aussi que lorsqu'il joue tout seul, c'est peut-être un peu plus compliqué qu'à l'Inter. Parce qu'à l'Inter, il forme un duo incroyable avec Lautaro Martinez. Alors qu'Olivier Giroud, lui, a l'habitude de jouer seul. Et même Ludo, quand tu disais, bon, il faudra voir si l'équipe de France joue plus bas. Entre Mbappé, Dembélé, Coman, ça prendra la profondeur. Et le point de fixation, tu l'as avec Giroud, et ça, c'est important. Vous savez, Greg, quand...
Non, mais tu sais qu'il y a des coachs maintenant qui veulent partir tout azimut. Oui.
C'est sûr, mais on connaît un petit peu le pragmatisme de Didier Deschamps. Je pense que, voilà, d'avoir deux flèches sur les côtés, ça suffirait à avoir un point de fixation avec Olivier Giroud. Vous savez, Greg, quand vous êtes en difficulté dans votre équipe, vous êtes un petit peu acculé défensivement. Vous êtes content d'avoir un mec comme Olivier Giroud devant.
Parce en que plus, quand, il aide défensivement.
Quand, je peux vous dire, j'ai connu ça à Bordeaux avec Marwan Chabak. Quand vous êtes en galère et que vous envoyez un ballon long et que vous savez qu'Olivier Giroud va garder le ballon, ce qui va permettre au bloc de remonter ou de jouer en pivot pour Mbappé ou Dembélé aux commandes, ça sert.
Bon, l'attaque c'est fait. Dans un instant, la défense. Théo Hernandez, Konaté, Saliba, Klose, qui joue le plus gros en défense pour être titulaire à l'Euro, voire notamment pour William Saliba, faire l'Euro. Vous avez des réponses différentes. Vous allez voir, vous allez encore en parler ensemble. On aura le marquage et la culotte, Jonathan O'Donnell, le foutoir d'Adrien Courrouble. Nous aurons également la compo des Bleus. Elle tombera, on en parlera. Le replay d'Antoine Pinot. Et puis ce soir, soirée exceptionnelle, soirée qualifiers sur la chaîne L'Équipe. Vous avez évidemment ce match essentiel pour savoir qui sera dans le groupe des Bleus entre la Pologne et le Pays de Galles. Et puis on suivra également les rencontres des Pays-Bas et de l'Autriche qui seront dans le groupe des Bleus à l'Euro. A tout de suite dans le DG. De retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous. Et sur l'équipe live, vous avez Géorgie-Grèce, finale de la voie C pour savoir qui ira à l'Euro dans le groupe, notamment du Portugal, de la Turquie. 0-0, prolongation, tir au but. On suivra tout cela dans l'équipe de Greg. C'est aussi sur live. Et ce soir, soirée spéciale barrage Euro 2024. En direct dès 20h35, qui de la Pologne ou du Pays de Galles sera dans le groupe de la France, vous le saurez en restant avec nous. Puis vous verrez également les matchs de l'Autriche et des Pays-Bas, qui sont les adversaires des Français. À l'Euro, ça sera une sacrée soirée avec 6 matchs à vous proposer, et notamment les finales de barrage. Dans un instant, on parle de l'équipe de France avec des défenseurs alignés. Théo Hernandez, Konaté, Saliba et Clauss, qui jouent le plus gros pour être titulaire, pour éventuellement aller à l'Euro. Le marquage à la culotte de Jonathan O'Donnell, et puis Antoine Pinot pour le replay et le foutoir d'Adrien Courrouble. Maintenant, je vous pose la question. Après l'attaque, qui joue le plus gros en défense parmi les 4 alignés ce soir? Regardons vos réponses. Pour Alicia, c'est Jonathan Clauss. C'est William Saliba pour Olivier Bossard. C'est Jonathan Clauss pour Benoît Tremolinas. William Saliba également pour Laurie de l'Hostal. Jonathan Clauss pour Ludovic Obraniak. Et Jonathan Clauss pour Adrien Courrouble. Pourquoi Jonathan Clauss, Ludo?
Bah, il vous a pas échappé que c'est le désert de Gobi sur notre côté droit et que ça fait un moment que ça dure. Jonathan Clauss a été testé, il a été plutôt intéressant sur certaines sélections. Et je trouve que si on a Giroud, Jonathan Clauss a une chance formidable. C'est de créer un binôme avec Olivier Giroud. Parce que forcément, quand on connaît la qualité du jeu de tête d'Olivier Giroud et la qualité de centre de Jonathan Clauss, ça devrait pouvoir matcher. Donc si Didier Deschamps, sur certains matchs, décide d'avoir l'option un peu plus offensive, ce qu'il avait testé pendant un moment et qui n'avait pas été si mal finalement, bah, Jonathan Clauss, là, ce soir, il joue peut-être une place de titulaire pour l'Euro. Clairement. Donc j'avais l'idée, peut-être dans l'idée, qu'ils remettent Pavard sur le côté droit. Mais je me dis que le garçon ne va peut-être pas être enchanté par la nouvelle et que ça ne collera pas. Donc, comme Koundé, ça a l'air vraiment de coincer.
C'est compliqué.
Ouais. Bah, Jonathan Clauss, là, il y a la route 66. Là, il faut qu'il prenne la
Harley. Attention, parce qu'elle est fermée maintenant.
Il faut qu'il prenne la Harley, cheveux au vent, et il faut qu'il mette les gaz. Hein.
C'est tellement beau que je ne vais pas vous contrarier, voilà. Alicia.
Bah, pour lui aussi, le match aura une saveur particulière à Jonathan Clauss. Il joue à domicile, c'est le local de l'étape. Et effectivement, il joue très gros pour l'Euro. C'est l'un des joueurs les plus mis en avant dans la presse aujourd'hui. C'est lui qui est en une de l'équipe et pas Kylian Mbappé. C'est assez rare pour être souligné. Jour de match de l'équipe de France, c'est donc déjà un indicateur. Ouest France parle même du rendez-vous de sa vie. L'Euro qui est l'objectif de la saison pour l'ancien Lensois, qui a traversé des derniers mois agités, poussé vers la sortie par ses propres dirigeants à la fin du mercato, critiqué pour son manque d'application. Justement, on se disait, tiens, il s'économise peut-être en vue de l'Euro, pointé du doigt aussi pour un comportement problématique. Bref, la situation s'est apaisée depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset et grâce aussi à ses performances sur le terrain qui ont mis tout le monde d'accord. Clauss qui a aussi avoué chez nos confrères de Téléfoot dimanche dernier que le soutien de Didier Deschamps pendant cette période compliquée a été précieux. C'est forcément quelque chose de très positif quand le sélectionneur vous appelle pour vous glisser quelques mots de réconfort. Ce n'est pas vraiment le mot, mais des mots de soutien. Si lui prend la peine de me dire ça, il faut que je sois encore plus calme et plus concentré sur le terrain et pas sur ce qui se passe autour. Voilà, il a bien fait de se concentrer. Aujourd'hui, il est titulaire, ou a priori en équipe de France. Il joue sa place dans le 11, devant son public. Et le débat pourrait être définitivement clos.
Alors oui, excellent. Benoît Tremolinas, après ce passage grosse tête qu'on apprécie, est-ce que finalement le grand gagnant, ça ne peut pas être à nouveau Benjamin Pavard, mais en étant perdant parce qu'il ne veut pas jouer à droite? Mais si Koundé a fait une prestation cata contre l'Allemagne et que Clauss, et on ne lui souhaite pas, c'est pas bon soir.
On le saura ce soir. Si Clauss, je rejoins Ludo, si Clauss fait un gros match ce soir, je pense qu'il peut être titulaire à l'Euro.
Même dans les gros matchs, même si Deschamps a besoin de renforcer, de certitude.
Même dans les gros matchs. Parce que défensivement, s'il me met une paire, si je ne suis pas trop fan, mais s'il met une paire Upamecano, Konaté que j'aime beaucoup, si défensivement il revient, ce sera costaud. S'il met Théo Hernandez, Jonathan Clauss, même si c'est offensif, il aura besoin de ça parce que À mon avis, il jouera avec Giroud devant. Et tu l'as dit, Ludo. T'as besoin de bons centreurs sur les côtés. Théo Hernandez a fait énormément de progrès défensivement. Klos est pas si mal que ça aussi. Donc il a une vraie carte à jouer ce soir, clairement.
Et puis défendre comme un latéral et défendre comme un central, c'est pas du tout la même chose. Koundé, il est dans ses chaussons quand il est dans l'axe. Quand il est sur un côté, on voit que c'est un garçon qui a pas les appuis pour aller chercher des ailiers. Jonathan Klos, il a des appuis plus courts, il a une fréquence plus courte.
Et puis avec
il a une vélocité, il a quelque chose qui correspond au poste et à l'adversaire qu'il peut avoir en face de lui.
Et puis avec un joueur comme Dembélé devant, avec la finesse technique qu'il a, ou un Coman, ça peut parfaitement matcher avec Jonathan Klos. Donc forcément, il a une grosse, grosse carte à jouer ce soir.
D'autant que c'est lui qui a les meilleures stats sur l'année 2023, Jonathan Klos, depuis le Mondial. Au poste de latéral droit, si on le compare à Benjamin Pavard et à Jules Koundé, je répète, au poste de latéral droit. Donc on a pris les matchs de Benjamin Pavard lorsqu'il jouait latéral droit. C'est lui qui a les meilleures stats offensives d'abord. C'est lui qui a la meilleure note moyenne également dans l'équipe sur les matchs qu'il a disputés à droite. C'est seulement Koundé qui a le nombre de buts, la moyenne de buts encaissés par match la meilleure.
Alors Bertrand Latour, vous êtes toujours avec nous, on va voir le dossier Saliba avec Laurie et Olivier dans un instant, mais j'aimerais que vous fassiez la synthèse de ce que vous avez entendu de la part de Benoît et de Ludo. Quel est votre sentiment par rapport au match de Klos ce soir et est-ce qu'il joue tout simplement?
Je pense que Jonathan Klos, il a une magnifique opportunité ce soir de continuer à peser et de peut-être d'inverser la tendance sur la hiérarchie au poste d'arrière droit. C'est une très belle carte à jouer. Je ne sais plus qui a utilisé cette expression-là, mais elle me paraît adaptée à la situation et il n'est pas saugrenu du tout de penser qu'il puisse être titulaire à l'Euro. Donc c'est une belle opportunité parce que c'est vrai que Jules Koundé était mieux ces dernières semaines avec le FC Barcelone, mais sa prestation d'ensemble face à l'Allemagne a été décevante. Mais moi, celui que je trouve qui joue le plus gros, et ça me paraît assez incontestable, je pense, c'est William Saliba, parce que il a été tensé plusieurs fois par Didier Deschamps, qui insiste régulièrement sur le fait qu'il fait des bons matchs avec Arsenal, mais aussi des moins bons parce qu'il les voit tous, les matchs, et parce qu'il a un temps de jeu qui est réduit, parce qu'il y a une concurrence à ce poste qui est importante. Dizazi est capable d'évoluer en défense centrale. Jean-Claire Todibo est déjà venu en équipe de France, et sachant que Saliba reste sur des performances décevantes en bleu, jamais mis dans les meilleures conditions. Là, c'est sans doute un peu plus le cas puisque Konaté lui sera associé et nous sommes à domicile contre une équipe plus faible. Mais s'il n'est pas bon soir, lui, c'est sa place dans les 23 tout court qui peut être en danger. Et ça ne me semble pas être le cas ni de Théo, ni de Klos et ni du troisième que j'ai oublié.
Ce sera Konaté, tout simplement. Bertrand, en 10 secondes.
Voilà, Konaté.
La hiérarchie du poste derrière, vous avez dit, c'est quoi la hiérarchie? Moi, je ne la connais pas.
La hiérarchie, si on se fie au premier match où c'était l'équipe la plus compétitive possible avec les alinéas de Konaté qui a été blessé ces derniers temps, c'était que Koundé était devant. Mais c'est un poste qui est ouvert et donc c'est souvent, je pense, la forme du moment qui va décider. Et les dernières prestations, celle de Koundé n'est pas bonne. Si Klos est encore aussi bon que lors du précédent rassemblement, à mon avis, il partira avec les faveurs des pronostics. Mais c'est serré parce que Klos, je sais que bon, forcément, chacun sait, le staff les premiers, que ce n'est pas celui qui défend le mieux.
Merci Bertrand. William Saliba, il joue sa place dans le groupe des 23, Laurie de l'Hostal, ce soir?
Oui.
Ou ça a une éventuelle possibilité de titularisation? C'est quoi son enjeu ce soir?
Non, je ne crois pas à la titularisation. Non, sa place dans le groupe des 23. Je ne sais pas dans quelle mesure elle n'est pas déjà compromise, sa place dans les 23, parce qu'on a beaucoup parlé du soutien de Deschamps dans les mots envers Klos, on l'a parlé de son soutien envers Randal Kolo Muani, et c'est assez étonnant la manière dont il parle de William Saliba quand il dit j'aime bien ce qu'il fait, il fait une bonne saison en club, mais je le relis, mais je le vois aussi faire des choses qui me plaisent un peu moins. Ça fait vraiment un gros avertissement, gros warning, attention, t'es en danger. Donc Je pense que je serai William Saliba, j'aurai les pétoches ce soir avant de commencer ce match parce que je pense que sa place est... Ouais, je pense qu'il a toujours Ibou Konaté et Upamecano
devant.
En tête, c'est
et
sûr.
Et Pavard aussi, il aime beaucoup maintenant qu'il joue en défense à 3. Hein.
Et Pavard, s'il ne le voit pas à droite, je pense qu'il mettra Pavard à droite.
Sachant qu'a priori, le titulaire à ce poste-là, c'est Dayo Upamecano, et qu'il y a une vraie différence sur l'année 2023 entre William Saliba et Upamecano en équipe de France. Encore une fois, on le répète, avec une note moyenne de 6,1 pour Upamecano lorsqu'il joue en bleu, 6 matchs titularisation. Entre 4, c'est très peu pour William Saliba.
Et ce qui... C'est à la fois injuste parce que il a jamais, rarement été mis dans les meilleures conditions pour s'exprimer pleinement en équipe de France. Et je vois mes collègues à gauche qui ont envie, je pense, de défendre William Saliba, mais
Bon, il a un avis sur lui, Didier Deschamps, manifestement.
Et donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ça veut dire, Olivier, on finit avec vous, que à moins de sortir une prestation XXL, il a des chances de louper l'Euro, là.
Mais je trouve ça fou. Moi, je comprends pas les réserves que Didier Deschamps a sur William Saliba. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il accorde moins de crédit à William Saliba qu'aux autres. Effectivement, on a l'impression que Benjamin Pavard lui est passé devant. Upamecano, il l'a toujours soutenu, alors qu'on l'a vu en difficulté au Bayern, on l'a vu en difficulté en équipe de France. Au début, c'était très compliqué. Il l'a toujours soutenu. Et il n'y a pas ça avec William Saliba. Alors, il dit qu'il regarde ses matchs du côté de l'Angleterre. Moi aussi, je les regarde. Et franchement, je vois quelqu'un qui maîtrise complètement son sujet. L'année dernière, il est quand même dans l'équipe type de la première
ligue. C'est quoi ? C'est une fausse excuse, alors ? Est-ce qu'il y a autre chose ? Est-ce qu'il y a l'avis de groupe ? Est-ce qu'il y a comment ça se comporte au château ? On sait très bien qu'il est pointilleux là-dessus.
Il y a peut-être le caractère tout simplement de Saliba qui parfois a besoin d'être. Il y a des caractères qui ont besoin d'être remis en question.
Il y a forcément un truc à côté.
Secoué, il y a
peut-être le côté nonchalant un peu de Saliba qui lui déplaît. C'est possible, mais franchement sur le terrain, et c'est dur pour lui parce qu'on a l'impression qu'il a toujours besoin de prouver plus. Donc, il a quand même la pression ce soir. S'il ne réussit pas son match, franchement, ça va être compliqué.
Il n'y a qu'un vrai tenu ce soir, à l'inverse des différentes prestations.
Le marquage à la culotte de Jonathan Donnel arrive dans quelques secondes. Le foutoir, les 5 infos essentielles ce soir avec Adrien Courrouble. Le replay d'Antoine Pinot, la compo des Bleus officielle qui tombera. On en parlera pour se plonger dans ce franchise. Et puis, évidemment, derrière la soirée des barrages, qui ira à l'Euro ? Réponse juste après l'équipe de Greg. À tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg, on est dans le temps additionnel de la finale de la voie, c'est des barrages. 0-0 entre la Géorgie et la Grèce. Double écran, vous restez avec nous. Et puis tout à l'heure, vous suivez ça également sur l'équipe live. Prolongation, tir au but pour savoir qui ira dans le groupe du Portugal, de la Turquie et de la République tchèque. Ce soir, nous suivrons le match entre le Pays de Galles et la Pologne pour savoir qui ira dans le groupe de la France. Il y aura aussi les matchs de l'Autriche et des Pays-Bas qui seront eux aussi dans le groupe de la France. Soirée barrage. Et voilà, 2025 sur la chaîne L'Équipe. Il est 19h50. Voici le marquage à la culotte. C'est Jonathan Donnel avant le foutoir. Parfois il est coincé dans le tunnel des jingles.
Ça va ?
Oui.
S'il faut la Pete Doherty là, qu'est-ce que vous avez ramené là ?
Moi j'aime bien Pete Doherty.
Ah ouais, t'as laissé ton bergement et ta bière à l'entrée, j'espère quand même, Adrien, pas ce soir.
Oh, j'ai croisé au Havre.
Ah, je l'attendais depuis tout à l'heure quand même.
J'ai croisé au Havre dans le COP du Havre.
Et oui, d'un coup ça t'a passionné, j'ai l'impression. T'es pris d'une grande passion, j'ai l'impression, mais c'est très bien.
On a fait une soirée ensemble.
C'est pour ton retour, je suis très content. Ah. Ça faisait longtemps qu'on s'était
vu. Vous passé au contrôle.
Voilà, ouais, contrôle antidopage s'il vous plaît pour Adrien Courrouble. Ah, c'est une belle entrée, j'aime bien. Ouais, bien. J'attendais ce moment avec Adrien, je suis content de le voir. Je suis content de voir Benoît. Eh, Benoît, on a failli se voir ce week-end là à Bordeaux.
Ah oui,
on était à ça, puis il a une fille, je sais pas quoi. Enfin bref, voilà. Le loser, quoi.
Surtout lui, hein, le
problème. Ouais, ça va.
On va pas raconter.
Ouais, mais c'est ma chronique, Benoît, donc. Tu vas me laisser avoir raison, s'il te plaît, t'es gentil quand même. Hein.
T'as raison.
Bon, moi, ça va pas de ouf.
Qu'est-ce qui se passe ?
La trêve internationale, ça y est, ça commence un peu à me fatiguer. J'aime bien voir jouer l'équipe de France, mais j'ai une chronique à écrire. Donc voilà, moi, deux matchs amicaux en 10 jours, dont un qui n'est pas passé, je ne peux pas écrire grand-chose. D'accord ? Voilà. Donc le ping-pong, si vous voulez. Je suis à deux de parler de ping-pong. Hein, les deux frères, voilà, ils se sont affrontés en finale. Le petit a perdu, il s'est mis à pleurer. Pendant que le grand est monté sur une table devant des acclamations, voilà la fraternité quoi. Il était là, Félix, pleure moins fort, j'entends pas les applaudissements. Voilà. C'était hyper sympa, hyper un bon moment entre les deux. Première fois que je parle de ping-pong quand même en 3 saisons dans ma vie, c'est vrai. Déjà dans ma vie, comme quoi c'est un sport qui évolue, voilà, grâce à moi. Voilà, un petit peu grâce à moi quand même.
Oui.
Mais bon, de toute façon, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas une petite bagarre à la fin sur comme les frères. Non, mais les frères ils se battent souvent. Moi j'ai besoin de ça, un peu de bagarre, un peu de borderline, de licenciement, parce que la Ligue 1 fast-food elle me manque. Donc moi il faut des trucs pour pouvoir écrire normalement. Parce que France-Allemagne, bon, on va faire 5 minutes sur France-Allemagne. Ouais, les Français ils ont été des quiches, 7 secondes c'était plié, ça m'a rappelé ma première fois, tu me diras, allez, on rigole, je suis une machine maintenant, attention, hein, vous moquez pas de moi.
Ça me dégoûte.
Mais bon, va falloir maintenant, parce que Mbappé aussi très décevant, sauf en conférence de presse, toujours très efficace évidemment. Mais bon, va falloir se rattraper face au Chili. Donc le Chili, pas évident. Là ils ont mis 3-0 à l'Albanie, ce qui veut dire dans le langage foot que on sait pas du tout ce que ça vaut, parce que personne n'a jamais regardé un match de l'Albanie, d'accord, ok. Les seuls Albanais qu'on connaît, c'est dans Tekken, et ça fait flipper. Donc voilà, on regarde pas tout ça. Donc, et puis bon, Chili, Chili, c'est là, on connaît deux joueurs et dont un parce qu'il joue en Ligue 1. Donc voilà, on va pas flipper. Voilà, faut se rattraper à ce moment-là. En plus, non, mais ça va être un bon match. Là, il y a des mecs qui sont à 200%. Il y a les Zaïre Emery, il y a Fofana, il y a Guendouzi. Il va jouer un peu, non, ou pas. Allez, dommage pour eux. Ils ont quelque chose à prouver, quoi, pour aller à l'Euro, quoi. C'est ça qu'on a dit.
Tu crois?
Bah, je sais pas trop. Alors Zaïre Emery, oui. Il a un lot de consolation, au pire. Au pire, il fait pas l'Euro, il fait les JO. Il va découvrir le village olympique, prendre capote dans la poche et il va se régaler le petit. Ah, c'est les chiffres. Hein. Il y a une distribution qui va être faite. Donc ça va être bien.
C'est vrai qu'il va y avoir mais c'est bien. Ouais, sortez couvert, mettez des capotes.
Regardez le match France-Chili. Il y a des beaux matchs ce soir parce qu'il n'y a pas que France-Chili. Attendez, j'ai regardé. Il y a que, c'est les quarts de finale de Coupe du Monde. Hein. Angleterre-Belgique, Allemagne-Pays-Bas, Espagne-Brésil. Tout ça sur l'équipe live, je tiens à le dire. Ouais. Je fais peut-être pas des bonnes chroniques, mais je fais des bonnes promos. Moi, ça. Dans le showbiz, pour renouveler un contrat, je vous jure que c'est hyper important. Donc, non, c'est top. Hein. Bon, il n'y a pas que de la trêve internationale en ce moment aussi. Il y a les coulisses de la Ligue 1 aussi.
Ouais.
Bah ouais, parce qu'en ce moment, en Ligue 1, on essaye de dégager le patron de l'arbitrage. Oui. Anthony Gauthier, là, on essaye de le saboter. 17 clubs sur 18 sont en train de signer des petits papiers, tout ça. Même Clermont, hein, qui va descendre en Ligue 2. Et avant de descendre, ils se sont dit, on va quand même lui faire un sale coup, Anthony Gauthier. C'est très sympa, ça. Alors, il n'y a que Strasbourg qui a pas signé. Mais je sais même pas s'ils sont au courant. Ça se trouve, les papiers sont allés à Chelsea et Chelsea ils disent, on sait pas qui sort Anthony Gauthier, on a rien à foutre. Ah, mais voilà. Bon, c'est ma théorie, hein. Vous faites comme vous voulez. Hein. Bon, on peut lancer le top tweet, s'il vous plaît, maintenant. Jingle. Dans les top tweets, évidemment, sur le match de l'équipe de France, on peut commencer avec un collègue.
Ouais.
Hein, un petit tweet de collègue. Florian Gazan. Koundé, là où il est le meilleur en bleu pour le moment, c'est l'heure des arrivées à Clairefontaine, totalement. Hein, parce que là, pour l'instant, arrière droit, c'est un peu compliqué.
Ouais,
ensuite, tout. Petit cours d'histoire de le France-Allemagne, ça fait toujours parler. Dernière fois que les Allemands ont transpercé aussi vite la France, c'était en 40 sur la ligne Maginot. Ouais. Ouais. Très mauvais souvenir, évidemment. Et on se termine avec une enquête chez les Espoirs. À noter qu'un data food analyste est en tribune pour le match de U23 et fournir un rapport à la FFF sur les suspicions de joueurs Agen. Intéressant. Et oui.
Évidemment.
Très bonne
soirée. Merci, bonjour. Bonne soirée, Jonathan. Bon spectacle. N'hésitez pas à aller le voir un petit peu partout en France. Allez, voici le foutoir avec Adrien Courrouble. Donc la première partie de Pete Doherty prochainement, mais avant cela, on va connaître ce soir l'adversaire des Bleus, Adrien.
C'est Pete Doherty qui fera ma première partie.
Bien sûr.
Ah. Au choix, la Pologne ou le Pays de Galles, la Pologne de Robert Lewandowski ou bien le Pays de Galles qui n'a plus Gareth Bale, qui n'aura pas Aaron Ramsey également privé. Regardez, c'est le vestiaire là du Pays de Galles à Cardiff juste avant cette rencontre. C'est un match sec, un barrage à 20h45 sur la chaîne L'Équipe. Il y aura Ukraine-Islande également. Mais donc ce match qui nous intéresse puisque le vainqueur sera dans le groupe de l'équipe de France avec l'Autriche et les Pays-Bas. On va retrouver Loïc Tanzi qui vous a fait une petite vidéo. Il est au stade aujourd'hui. C'est notre émissaire, notre espion Loïc Tanzi du côté de Cardiff. Et il vous a fait, Greg, une petite vidéo juste avant d'arriver dans le stade, Loïc.
Salut les amis, on est à un peu moins d'une heure du coup d'envoi de ce Pays de Galles, Pologne ici à Cardiff. Allez, je suis vraiment à côté du stade, mais pas encore dans le stade, parce que Greg, quand même, avant un match pour le peuple britannique, le plus important, c'est d'aller boire une petite bière avant. Donc allez, on est moins d'une heure avant le coup d'envoi, et pourtant, il y a du monde déjà dans les pubs. Si j'arrive à me frayer un petit chemin dans ce pub, on est vraiment à 20 mètres du stade. Mais je voulais vous montrer ça parce que je pense que c'est vraiment l'ambiance avant un match à Cardiff. Ça va être génial. 33 000 personnes ici ce soir. La musique, évidemment. Et le peuple est à plein. Allez, à moi. Tout le monde prend sa petite bière, déjà. 20h45 en français à ce coup d'envoi avec Lewandowski côté polonais. Pas de Gareth Bale du côté du Pays de Galles, mais peut-être une troisième qualification d'affilée pour l'Euro.
Et évidemment, avec modération, on en débriefera ça demain, Pologne ou Pays de Galles avec les Bleus. Une légende du football d'ailleurs, mais les Bleus favoris à l'Euro. Hein.
Ouais, c'est Philippe Lahm, c'est le Tony Estanguet de l'Allemagne, puisque c'est le président du comité d'organisation de l'Euro 2024. Philippe Lahm, mais qu'est-ce qu'il a dit dans un entretien donné à l'AFP? La France est favorite, tout simplement parce qu'ils ont, je dirais, 40 joueurs. Ils ont vraiment beaucoup de joueurs très talentueux. Ils ont un groupe très équilibré et peuvent facilement procéder à des changements. Amener des joueurs du banc qui auraient normalement la légitimité de jouer dès le début, mais ce qui est décisif, c'est aussi de se présenter en équipe sur le terrain.
C'était avant ou après le match?
Après le match, c'était hier.
Les Bleus finissent mal face aux États-Unis. Hein.
Bah oui, ils ont déraillé. Alors... les Bleus de Titi Henry parce qu'ils menaient 2-0 et finalement ils ont fait match nul de partout contre les États-Unis. On va voir d'abord les deux premiers buts marqués par les Français. Arnaud Kalimuendo, premier but sur penalty pour le Rennais. C'est ensuite Andy Diouf qui va marquer le second sur un joli mouvement. Regardez, c'est à la 80e avec Truffert, Akliouche à la passe. et 2-0 pour les Olympiques avec cette reprise à l'entrée de la surface de réparation, but marqué par le joueur qui évolue du côté du RC Lens. On se dit bah ils sont bien, ils se préparent bien aux Jeux Olympiques, les joueurs de Thierry Henry. Et puis regardez le chrono, 86e minute, c'est Griffinho qui va marquer après un gros travail dans la surface de réparation. Il va éliminer les défenseurs de l'équipe de France. Dans la foulée, deux minutes après seulement, c'est Colwell qui lui aussi va se balader un petit peu dans la surface de réparation, frappe qui va être contrée, hop, et qui va rentrer au fond de la cage de Guillaume Rest. Mauvais nul pour les Bleus qui retrouveront les États-Unis. Ce sera le 24 juillet pour l'ouverture des Jeux Olympiques.
La Ligue 1, ça reprend, Jonathan, on parlait avec le classique hein, ce week-end.
Classique un petit peu déplumé et notamment du côté des Marseillais. Regardez la longue liste des joueurs incertains ou absents du côté marseillais. Valentin Rongier, Amir Mourinho, Nadir, Samuel Gigot, Pape Gueye, Sarr, Garcia, Bamomeite, Jean Onana, Luis Enrique seraient eux incertains. On est sur 8 absences assurées. C'est pas terminé, il reste quelques jours encore. Hein. Donc ça pourrait être pire.
Et puis on termine avec Paris sur un prospect européen.
Victor Gyökeres, attaquant suédois de 25 ans qui joue au Sporting. C'est 36 buts, 12 passes décisives cette saison en Ligue 1 portugaise. Eh bien, il est pisté par le Paris Saint-Germain selon Abola, média portugais, qui précise que l'attaquant, il aurait une clause libératoire de 100 millions d'euros que Chelsea et Arsenal sont sur le dossier. Ça, c'est un but qu'il a marqué, on l'a vécu sur la chaîne L'Équipe face au Portugal, Gyökeres.
Ouais, et c'est vrai que les stats sont assez incroyables. Hein, 36 buts,
12
passes décisives. C'est toujours pas fini entre la Géorgie et la Grèce à suivre sur L'Équipe Live. On ne sait toujours pas qui sera qualifié dans le groupe du Portugal, justement, puisqu'on parlait d'un joueur du championnat portugais. 92e minute Géorgie-Grèce. Et puis ce soir, on saura qui l'équipe de France va affronter. Soit la Pologne, soit le Pays de Galles. Et puis on découvrira les adversaires des Bleus à l'Euro. Les Pays-Bas, qu'on connaît bien, ils étaient dans le groupe. Et également l'Autriche. A tout de suite pour la suite et la fin de l'équipe de Greg avec le replay et la compo. Équipe de Greg, merci d'être avec nous. Regardez ça! On est dans la prolongation de Géorgie-Grèce, toujours 0-0. On ne sait toujours pas qui va aller à l'Euro. Et c'est chaud, hein, Adrien?
Très chaud. Je le rappelle, hein, mais la Géorgie est entraînée par Willy Sagnol. Oups. Face à la Grèce de Gustavo Poyet, deux ans de son entraîneur de Bordeaux.
Exactement. Il est mieux en Géorgie, il est plus bien pour le faire. On lui souhaite le meilleur, bien sûr. On se demandera d'ailleurs ce soir qui de la Pologne, du Pays de Galles, sera dans le groupe de nos Bleus. Et puis on suivra le reste des barrages et puis des matchs amicaux. Pays-Bas et Autriche qui seront évidemment dans le groupe des Bleus. On saura tout évidemment dans quelques minutes ce soir, pendant que les Bleus jouent contre le Chili. On a la compo. Bertrand Latour est-il avec nous en direct depuis Marseille? On aura le replay d'Antoine Pinot avec le meilleur du pire. De la chaîne, notamment de l'EDG, de l'EDC.
Bien sûr,
il est là, Bertrand. Bien sûr, mon Bertrand. Alors, Bertrand, la compo pour toutes celles et tous ceux qui viennent de nous rejoindre à 20h09.
Et celle-ci, elle est officielle, donc c'est d'autant plus important. Gardien de but, Mike Maignan, arrière droit, le Marseillais, Jonathan Clauss, charnière, composé de William Saliba, ex-Marseillais, à Ibrahima Konaté, qui fait son retour dans le 11. Ils sont 9 à faire leur première titularisation lors de ce rassemblement. Arrière gauche, Théo Hernandez, pour ce qui est du milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni, qui enchaîne Eduardo Camavinga et Youssouf Fofana, le monégasque, et pour ce qui est de l'attaque, attaquant gauche et capitaine Kylian Mbappé, attaquant de pointe Olivier Giroud, ailier droit Randal Kolo Muani, ça fait 11 et ça fait donc 9 changements.
Alors Bertrand, ça doit vous manquer de ne pas craquer une compo là. Vivement l'Euro hein, pour que vous puissiez chercher, découvrir.
Bah on l'a fait hier, vous êtes gentil.
Oui, mais c'est trop facile pour un limier comme vous, non?
Finalement. C'est pas tombé du ciel. Non, les toilettes, etc. Faut se cacher et tout. Non, c'est pas si simple. Mais après, quand on va ailleurs, on découvre les nouveaux stades.
Bien sûr.
Là, on sait pas en Allemagne à quelle sauce on va être mangé, même si Dortmund en a déjà été.
Ben oui, évidemment. Alors, vous soyez davantage. En tout cas, bravo.
C'est bien.
C'est une info que vous nous aviez donnée hier à la compo probable également du journal ce matin. Vous aviez été très bon. Pour vous aussi, c'était logique.
Pas, c'est normal.
Tout à l'heure, Ludovic Obraniak disait que c'était prévu ces 9 changements. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il l'a dit en tout début d'émission.
Absolument, c'était une chose sur laquelle je voulais réagir et vous m'en avez empêché. J'ai failli d'ailleurs quitter le plateau où je n'étais pas. Mais il a raison, Ludovic Obraniak, et je trouve que c'est plutôt rassurant parce que il y avait une décision qui avait été prise à l'amorce de ce rassemblement, équipe premium, on va dire, face à l'Allemagne, et ensuite large rotation face au Chili pour voir d'autres joueurs, et notamment ceux qui jouent assez peu. Et il aurait pu y avoir un vent de panique au sein de l'équipe de France et se dire, oulala, on a perdu le premier. Si on en perd deux ou s'il y a deux mauvais résultats, c'est négatif. Et on remet la meilleure équipe possible. Là, il y a un turnover qui est opéré et je trouve que c'est positif, ça permet de voir d'autres joueurs, des joueurs comme Saliba qui ont eu peu de temps de jeu, comme Klaus qui a une carte à jouer, comme Kolo Muani qui est en manque de confiance. Donc moi, cette équipe, elle m'intéresse. Elle est moins forte, a priori, que celle qu'on a vue vendredi, enfin samedi dernier. Mais vu ce qu'ils ont fait, ça devrait pas être difficile de faire mieux. Mais elle est intéressante, elle a de la gueule.
Oui, elle a de la gueule, hein, cette équipe Lloris de l'Hostal. Bertrand disait moins forte que celle de samedi dernier, mais là, il y a quand même des gars qui seront titulaires à l'Euro, hein, sincèrement. Parce que oui. Pour vous, elle est moins forte, je ne suis pas sûr.
Non. Bah non, mais le résultat, ça peut pas être effectivement pire. Donc,
elle non, mais d'accord, mais là, les joueurs qui la composent, Giroud, Mbappé, Colomani, Kamavinga, Hernandez, Konaté, qui pensent qu'elle est moins forte?
Ah non, pas du tout.
Alors, Olivier, allez-y.
Bah, l'attaque, elle
Pour moi, cette composition-là est meilleure. Enfin, on a quand même le gardien titulaire habituel. On a Konaté en défense centrale, qui est peut-être l'un des meilleurs défenseurs centraux en Europe. Moi, Saliba, je reste convaincu par lui, même si Didier Deschamps l'est un peu moins. On a un vrai latéral à droite, contrairement à Koundé, qui n'arrête pas d'avoir des complications avec cette équipe de France. On a quand même Mbappé. On a Giroud, qui est pour moi, il n'y a pas de match devant avec Colomboigny ou Thuram.
C'est peut-être au milieu de terrain où il y a des joueurs. Encore que Kamavinga, Tchouaméni, c'est costaud. Soufana, maintenant, il est habitué des Bleus.
Ce qui est plaisant, c'est qu'on a des latéraux offensifs.
Ça vous plaît?
Ah oui. Mmh. Et qu'on a éventuellement Tchouaméni qui sera un peu plus dans un rôle de compensateur. Et c'est peut-être là où il est le meilleur. Que dans l'organisation du jeu des Bleus. Donc, oui,
il joue souvent en défense centrale au Real. Là, il va jouer.
Donc le fait d'avoir deux latéraux qui s'engagent souvent et qui ont une très très belle qualité de pied, oui, ça me réjouit.
Bertrand, vous avez entendu, tout le monde n'est pas d'accord avec vous, hein?
J'ai peut-être commis une erreur, Greg. Je me suis peut-être laissé emporter dans une certaine euphorie. Ah, disons qu'il y a match. Je pense que la charnière Pavard ou Pamecano, c'est sans doute meilleur que Konaté Saliba, parce que Saliba, je pense qu'il est bien en dessous des autres. Pour ce qui est des latéraux, les deux arrières droits, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, donc ok. L'arrière gauche, je pense que Lucas apporte des garanties défensives que ne donne pas Théo, donc je peux comprendre ceux qui préfèrent, mais je pense que dans une défense à 4, s'il faut l'inclure sur un grand tournoi, dans la mesure où on n'a pas un arrière-droit fiable, je pense qu'on pourra difficilement faire l'économie d'un Lucas en forme côté gauche. Ça, c'est mon opinion. Je pense que le milieu de terrain, Rabiot, il est difficile à bouger. Donc ça, c'est moi, je le mets dans toutes mes compos, Rabiot pour mes titulaires. Et pour ce qui est de l'attaque, effectivement, il y a match. Bon, de toute façon, on n'est pas en direct, là. On peut couper au montage, on la refait, non?
Vous êtes bon, hein, quand même, hein, évidemment. Non, mais c'est ça la beauté du débat. Mais là, je voudrais, Benoît, à votre expérience de latéral. Bertrand disait, dans une défense à 4, on ne peut pas se priver du sérieux de la défense, de la force défensive, pardon, de Lucas Hernandez. Et avoir, donc, si je résume, à la fois Théo Hernandez et Klose qui plaît tant à Ludo. Et ce n'est pas la philosophie de Deschamps, a priori. Hein.
On parle de Lucas Hernandez d'il y a un an ou le Lucas Hernandez d'il y a quelques mois?
Jusqu'à Noël, peut-être.
Tu parce que celui d'il y a quelques mois, il peut jouer que dans l'axe.
Tu ne le verrais pas associé à Konaté, là, Lucas Hernandez?
Lucas Hernandez.
Vous êtes dur, franchement, jusqu'à Noël, il était bon à Paris. Noël que c'est dur.
Oui, mais là, on parle maintenant. Ouais. Le haut niveau, c'est être régulier et d'être bon tout le temps. Oui, bah, parce que Théo Hernandez, il a prouvé depuis le début de saison qu'il est bon tout le temps.
Énorme avec le milieu.
Et ben, bien sûr qu'il est énorme. Et non, Lucas Hernandez, aujourd'hui, il peut jouer dans l'axe. Couloir, je pense pas qu'il a le volume de jeu aujourd'hui, hein, je dis bien aujourd'hui, Greg, hein, pour jouer dans le couloir. Moi, Théo Hernandez, je trouve qu'il a fait énormément de progrès défensivement. Offensivement, il connaît Giroud par cœur. Je ne sais pas combien de passes dé il a sur Giroud. Donc, moi, j'ai toujours dit que pour moi, la paire centrale idéale, c'était Lucas Hernandez Konaté. Voilà, moi, clairement, c'était la meilleure. Klose, s'il fait un bon match ce soir, couloir droit, c'est intéressant. Voilà, après, au milieu de terrain, il y a peut-être Fofana aussi qui doit aussi encore prouver qu'il a sa place dans cette équipe de France. Et puis, Colomani qui a une vraie carte à jouer. Après,
On l'exclut toujours tout le temps. Et on attendait beaucoup Zaïre Emery et celui qui est sorti quand il s'est blessé. Youssouf Fofana, il reste sur des prestations en équipe de France de très très haut niveau.
Toujours, c'est vrai.
Attention, hein, parce que lui, on n'en parle pas beaucoup, mais s'il enchaîne encore ce soir, ça fera trois prestations de très très haute volée. Ça peut mettre peut-être aussi dans le poste de sentinelle à la place de peut-être Tchouaméni. Alors je sais que Deschamps l'apprécie particulièrement, mais.
Ah, Bertrand vous dit non, là. Il nous dit non. Vous dites non à ce que dit Ludo, là.
Non mais Ludo, il a le droit d'apprécier Fofana, il n'y a pas de souci, mais je crois que dans la hiérarchie, il part trop loin. Et d'ailleurs, quand il utilisait Fofana, il l'utilisait plus haut d'ailleurs. En tant que numéro 6, il ne l'est pas vu comme ça. Et donc vous avez Zaïre Emery qui vient d'arriver, qui est devant. Kamavinga aussi. Donc je pense que Fofana, sa place dans le groupe, elle est verrouillée. Je pense qu'il sera à l'Euro sans aucun doute. Mais de là, le voir grappiller du temps de jeu dans des matchs qui comptent, sur une grande compétition, j'ai du mal à y penser. Pour ce qui est de la charnière, j'entends les désirs de chacun. Je crois que s'il y a des choses dans lesquelles dit Deschamps croit, c'est la charnière, et Upamecano Konaté, s'ils sont disponibles. Et c'est pas rien, parce que l'un et l'autre, il y a quand même souvent des pépins techniques, ce sera eux. Ça, on peut espérer Saliba, qui vous voulez, ou Pavard, je pense que ça n'arrivera pas.
Ok, vous restez avec nous, Bertrand. Oui, Laurie, je vous vois réagir là, à droite, à gauche.
Je sais plus. Quelle
est, quoi, c'était, mais... on était sur les latéraux avec Benoît et Kamavinga. Il y a un nom qu'on n'a pas encore prononcé. Alors, on va y aller avec vous. Kamavinga, est-ce que ce côté couteau suisse, vous allez me répondre, puis après on ira voir Bertrand, ça le sert ou ça le dessert dans cette équipe de France?
Je pense que ça le dessert, mais lui, c'est vrai qu'on aurait pu parler de lui aussi, bah dans les,
oui,
joueurs qui ont des choses à jouer, à prouver. Ce soir, on attend de lui un match consistant, ce qui n'a pas toujours été le cas avec l'équipe de France. Donc, il fait partie des joueurs. Mais globalement, ça reste quand même l'équipe bis, c'est sûr. Et puis, en dehors des individualités, ce qu'on attend, c'est une réaction de cette équipe aussi, après ce qu'elle a montré samedi.
Vous voulez les voir gagner.
C'est pas les mêmes joueurs, mais en termes d'état d'esprit, c'était quand même catastrophique. Même si, on l'a dit, c'est pas très grave. Faut montrer autre chose ce soir, surtout devant son public.
Bertrand, un mot sur Kamavinga, parce que c'est vrai que lui, là, on a parlé de Tchouaméni, on a parlé de Fofana, on a parlé de Warren Zaremo, on n'a pas parlé de Kamavinga, on vient de le faire avec Laurie. Ouais. J'aimerais que vous nous en parliez aussi. C'est quoi son rôle? Il le voit où? Il le voit comment? À quel poste? À quel niveau? À quelle hiérarchie, Didier Deschamps?
Ben, je vous avoue que j'ai été un peu surpris, Greg, et je sais que vous avez de la mémoire, on a eu des débats un petit peu sur qui allait remplacer Griezmann, et bon, il y avait ceux qui pensaient que Zaïre Emery débuterait forcément. Moi, je pensais que Kamavinga, un poste qui n'est pas le sien, qui est moins le sien, puisqu'il est gaucher, il aurait été amené à être relayeur droit. Moi, je pensais qu'il pouvait débuter, parce que souvent, Didier Deschamps est vigilant quand même aussi à l'antériorité, à ce que vous avez réalisé, et Zaïre Emery est un des derniers rentrés en équipe de France. Donc, je pense qu'il n'a pas très bien vécu le fait d'être remplaçant face à l'Allemagne, ça c'est une évidence, donc il a une carte à jouer aujourd'hui. Moi, je pense que Kamavinga, on compte pas beaucoup sur. Enfin, on l'utilise assez peu, je trouve, par rapport au rendement qu'est le sien, la jeunesse qui est la sienne, à son vécu déjà. Et j'entends la mode autour de Zaïre Emery. J'ai aucun doute sur le fait qu'il réalise une grande carrière. Est-ce que Zaïre Emery, pour autant, c'est un joueur qui change une équipe? J'en suis pas sûr non plus. Je crois pas qu'on ait sous nos yeux l'avènement d'un milieu de terrain de la dimension d'un Paul Pogba, la personne de Zaïre Emery, qui soit un grand joueur. J'ai pas de doute. Est-ce qu'il est largement au-dessus de tous les autres milieux de terrain français? Je suis pas encore totalement certain. En tout cas, pas à l'heure qu'il est, de mon point de vue. Et le match face à l'Allemagne, au-delà du. Effectivement, collectivement, ça n'a pas été. On peut pas dire qu'il ait été mieux que les autres.
Vous avez quand même la dent dure, mais c'est ça, pour ça qu'on vous aime, évidemment. Et c'est, ça pourra nous faire un bien beau débat dans les deux jours qui viennent.
Je dis, c'est.
Ben, zézé, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, zézé, exprimez-vous. Ben, zézé,
mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est le milieu de terrain qu'on a jamais eu en équipe de France, en fait, Greg.
Quoi? Ben, moi, je vous avais dit.
Mais j'ai l'impression qu'on parle d'un joueur qu'on a jamais vu en France.
Je suis d'accord.
Ben pour moi, c'est pas le cas. Je veux dire, pour moi, c'est pas un nouveau Paul Pogba, c'est pas un joueur qui va être Ballon d'Or, c'est pas un joueur qui change une équipe. Donc, que ça soit un très bon joueur, il y a pas de souci. Que c'est un phénomène de précocité, il y a pas de souci. Est-ce que pour autant, il faut tout modifier pour lui? Je suis pas sûr. Kamavinga, il est titulaire au Real Madrid depuis quelques années. Ça se respecte aussi.
Ben complètement, et ça se respecte énormément. Alors, je viens de relancer sur Kamavinga, mais vous avez eu raison de rappeler notre petit débat sur Zaïre Emery par rapport aux stats offensives et Kamavinga. Mais en face, on parle des Bleus. Il y aura le Chili en face, Alicia. Hein,
oui, alors il y aura Alexis Sanchez, bien sûr, principale attraction côté chilien, qui retrouvera le Vélodrome. Mais pas seulement, il y a aussi un ancien Marseillais dans cette équipe du Chili, c'est Mauricio Isla, l'expérimenté arrière-droit chilien qui a évolué à l'OM lors de la saison 2015-2016. C'était sous Michel. 137... Comment, Ludo?
S'en souvient plus.
Eh ben non, c'est pour ça que je suis là, pour vous le rappeler. 137 sélections avec le Chili. Et on connaît un autre joueur dans cette équipe, un joueur qui évolue en Ligue 1, c'est le défenseur Gabriel Suazo qui évolue à Toulouse. Oui. Très bon latéral de notre championnat. Et puis, petite précision pour terminer, le monégasque Guillermo Maripán ne jouera pas ce soir. Oui. Il est blessé. Il s'est blessé avec sa sélection lors d'un entraînement à la jambe gauche. Et puis, toute dernière info, dans les caches, ce sera Claudio Bravo. Vous savez, l'ancien gardien du Barça.
Il était là, il y avait les City.
Il a 40 ans. Il va avoir bientôt 41 ans en avril. Il a commencé à jouer avec le Chili en 2004. Il est immortel.
Ben, complètement. Merci pour cette présentation du Chili. Bertrand, comme après, vous allez devoir filer. Je vous pose la question maintenant. Les copains, ce sera après le replay d'Antoine Pinot. À votre sens, Bertrand Latour, quel sera le score de ce France-Chili?
À mon sens, il y aura 3-1 pour l'équipe de France avec un grand kicks.
Merci beaucoup, Bertrand. À tout à l'heure dans l'équipe du soir avec Mémé et toute l'équipe. Passez un bon match. Salut Bertrand, merci d'avoir été avec nous. Il est 20h20, il trépigne, il est titulaire dans l'EDG. Voici Antoine Pinot, c'est le replay. Ah, Antoine Pinot, le meilleur du pied de l'EDG. pas mal, ça. Fais les jingles, tu fais les jingles. Je crée les jingles, c'est ça la radio.
On va partir en prod. Ça me fait plaisir à chaque fois, vous me taquiniez la barbichette. Il est en forme, Bertrand Latour. Hein.
Ah, il est en forme.
Ah, c'est une vraie petite canaille, celui-ci. Hein.
C'est une canaille.
Bah, on l'aura tout à l'heure, vous verrez, avec Joe Casaldi. Mais pour l'instant, on part en cuisine. C'est croquant, c'est gourmand. C'est top, Greg.
J'aime
allez,
bien.
Jingle.
J'aime bien. Ah, c'est bien ça aussi.
Ouais, c'est fort. Et qui dit équipe de Greg dit tolérance et bienveillance, comme hier soir avec Vikash Dorasso.
C'est une Vikash Dorasso.
Vikash, elle aurait fait 8 rebonds avant.
Qu'est-ce que vous êtes encore une deux. Il en a mis des puissantes, au moins une.
Voilà, finale ouais, en finale de Coupe de France,
voilà.
En plus.
Voilà, il l'a mis en finale de Coupe de France.
Le seul jour où il s'est réveillé.
Il l'a mis ce soir-là.
Alors, non. Alors, ça, Karine Galli, ça, on n'accepte pas. Ça, c'est carton rouge. Vikash n'a pas marqué qu'en finale de Coupe de France avec Paris. Il a marqué également. Ah ben non, en fait, oui, il a marqué. Ouais. Bon, alors Karine, bon désolé, c'est que carton jaune. Karine qui en plus a compris qu'il fallait valoriser les JO, car les espoirs vont les jouer. Les espoirs diffusés sur la chaîne.
Bah déjà moi le foot aux JO et tout le toin-toin autour ça m'agace.
Ouais. Ouais.
On en fait quand même toute une histoire de ces JO. C'est pas l'événement le plus important en foot de l'été.
Nickel Karine, quand elle va revoir le replay dans le bureau du patron.
Oh, ah merde.
Il n'est pas vite.
Dans l'équipe de Greg, il nous faut des encyclopédies humaines comme Seb Tarago, il se souvient de tout.
Et direction l'Argentine pour le numéro 2, la pépite de River Plate, Claudio Echeverri, 18 ans, qui donne le tournis à la défense de Gimnasia La Plata. Oh. Sébastien, vous l'avez vu à la Coupe du Monde U17, non. Je crois, ce joueur.
C'est possible, mais... Celui-là, je ne sais plus si j'ai commenté.
Je crois que nous avons affaire à des professionnels.
Ah ouais, excellent. Pour un bon plat, il faut que le groupe vive bien, comme toi Ludo Bragnac et Djibril Cissé hier soir. Excellent.
L'un de nos consultants a brillé ce week-end. Alors ce n'est pas Ludovic Obraniak, mais non. C'est Djibril Cissé qui a retrouvé les terrains ce week-end.
Ah, il a joué contre des grands-pères, ça va.
L'occasion d'un match.
Il joue contre des mecs, ils ont 80 balais. Ça va.
Ah voilà, regarde. Ah, regarde.
Il n'a pas 80
balais. Ouais, sauf qu'il y en a qui regardaient l'émission au même moment.
Ludo, arrête.
Arrête de parler, Ludo.
Oh, Bragnac, arrête de rager.
Je savais qu'elle.
Ouais, t'as raison, Djibril, de nous appeler. Vous l'adorez, Greg, tout comme le président Macron, je crois, du reste. Hein.
C'est pas vrai.
Oh, bah, on se garde le téléphone. Non, mais c'est pas Greg. Ludo, donc, tu nous as scotché par ta répartie, mais il y a encore mieux. Une phrase de malade en fin d'émission. Tu nous as scotché impressionnant.
Declan Rice, quand il y a Bukayo Saka, Harry Kane, ils ont des valeurs sur Bellingham. Je trouve qu'ils ont quand même des valeurs sur des joueurs.
Ah, c'est moyen, Ludo, en fait.
C'est dur.
Non, mais je respecte le fil de l'émission.
Ouais, ben c'est bien. Vous respectez le rythme.
Oui, voilà.
Et il le montre souvent.
Ah, c'est le mec qui respecte le moins le rythme.
Ah, ils vous freinent jamais l'émission, Ludo, avec Karim, les deux, c'est incroyable.
Ouais, c'est magnifique.
Bon, allez, on enchaîne. On va rendre hommage au chroniqueur de la semaine. Et le chroniqueur de la semaine, eh bien, nous allons le découvrir. C'est parti. Je parle comme Michel Drucker en 72. Et le chroniqueur, c'est Joe Castaldi. Ah oui, alors Joe, il nous a ému l'autre jour. Il s'est dévoilé comme jamais. Et il a ému Candice Roland. Ah, vraiment incroyable.
Pour ce qui est de la température, non, c'est juste que j'ai un peu froid. Je suis fatigué, je dors mal en ce moment, tout simplement. Ah ouais. Mais il fait frais. Voilà, je veux pas raconter ma vie. Mais il fait beau. Ouais. C'est parfait pour jouer au foot.
On est ravis de vous avoir.
Ouais, rien à foutre, Candice. Eh ben, à Candice, quand tu lui dis combien il reste à la fin du mois, elle est comme ça, notre Candice. Hein.
92 centimes.
J'en ai rien à foutre.
Alors que vous, Greg, Joe vous intéresse lors du tirage des JO.
On essaye sur les tirages au sort des Jeux Olympiques d'avoir des poules de 4 avec des continents différents. Donc on aura 80% du tirage au sort pour l'équipe masculine et quasiment 95% pour l'équipe féminine. Donc c'est un moment très très important. C'est aujourd'hui, mon cher Greg, que l'aventure olympique débute.
J'ai arrêté après tirage, mais ça devait être super. Vous restez avec nous, Giovanni. Vous avez été extrêmement clair.
Nous sommes en présence d'une victime.
Ah ouais, la planque. Joe Castaldi qui va se vider la tête dans l'équipe de choc hein, lors des Jeux pour être bien accueilli, bien sûr.
Griezmann.
Non mais tu sais pas, non,
beaucoup
mais,
trop mais
arrête,
tôt,
mais bon franchement, non,
beaucoup
mais
trop
Joe,
tôt,
c'est du monde, debout, hein. il est encore plus nul que Cossé.
Voilà, bon il vit des heures sombres, mais il peut toujours compter sur public, souvenez-vous, en octobre.
Votre pronostic, ça va donner quoi à votre sens?
On va
va gagner.
Le pronostic, en plus c'est un monsieur qui vient me voir, il me dit bonjour Benjamin, il a même pas le bon prénom, c'est formidable.
Giovanni qui reçoit tout de même des compliments, il a une façon de réagir, ça nous rappelle une époque de la vie, hein. Regardez.
L'été, même si je le dis, je le rappelle, vous voilà en gros plan, vous êtes encore plus beau en gros plan, Giovanni. Lundi soir sera France-USA, le 20...
La puberté.
Voilà. Heureusement, Karine Galli, compagne de Joe, vient l'aider en mettant son nom sur l'ardoise pour qu'on parle de lui, enfin en bien.
Avant de parler de votre choix sur Giovanni, on a une stat
sur Giovanni
Castaldi à la Corubla.
Ouais, effectivement, une statistique sur Giovanni face à la Côte d'Ivoire. Zéro but, zéro passe dé, zéro frappe cadrée, évidemment.
Regardez ça, c'est incroyable.
Bon, sachant, mais Dieu merci dans tout ça, Joe, garde une chose, ça répartit légendaire.
Pour aller à Sochaux, c'est votre faute. On embrasse évidemment les habitants de Sochaux et de Montbéliard. Bon, voilà, vous restez avec nous.
Un petit ferme ta gueule. Ah, c'est pas sorti, c'est le syndrome de Ludo Bragnac.
Ah, c'est terrible. Après, alors, il y a, ouais, Ludo bride. Non, mais alors là, attends, vraiment. Ouais. Moi, je vous bride. C'est ouais. Terrible d'entendre ça.
Moi, personne, pas trop. Hein? Ça va, j'ai pas à me plaindre depuis le début de l'année.
Non, mais ça n'a pas intérêt. Oui, bien sûr que
non.
Mais après, il y a un petit décalage, petit pépère. Bah, c'est pour ça.
Mais le rythme.
Le rythme, du rythme. Mais on attend. Rythme. On a mis Saoud qui se prépare pour la soirée.
Oui, je l'ai vu, il se maquillait.
Il est beau, hein.
Il est beau comme un coq.
Il est beau.
Je sais pas si cette expression est idée. Je viens de l'inventer à l'instant, mais elle est pas mal, je trouve. Ça sonne bien, non?
D'accord.
Non
mais demande pas
comme si tu vas aux équipes de France. Pareil.
Du rythme, du rythme, du rythme. Allez Barberousse, on y va.
Allez, on termine avec un petit tour des chroniqueurs Barberousse. Slash. Hier Greg, du clash, vous aviez deux chroniqueurs en plateau.
Inès Reg, Natacha Sinclair.
Ah non, pas celle-là, non, rien à voir. Plus light, Ludo Bragnac et Karim Benani. Une règle d'or, celui qui perd au jeu, il perd.
Ah oui, Djorkaeff.
Bah oui, oui.
Évidemment. Bolton, Blackburn,
heureusement que c'est Ludo en passant. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne jusqu'au 20e club. C'était nickel.
Non, mais quand on ne l'a pas, on ne l'a pas.
Souvent, il ne l'a pas.
Pas que c'est Monaco, pas rien.
Bon, en revanche, Karim, ce qui est bien, c'est qu'il n'insiste pas.
Alicia, Ludovic.
C'est tranquille, prends ton temps.
Arrête.
Derrière, la petite pécarde de Pierre-Antoine Damcourt.
Parce que lui,
Karim, n'arrêtez pas d'envoyer le balinage.
Alors, Adrien Kourouk, tu assises souvent à ces joutes et forcément, ça déteint sur toi.
Regardez ça, on dirait un petit anglais des 75, époque, vous voyez. Allez, début du punk, new wave, tout
ouais,
ça.
J'aime bien, j'aime
Adrien
bien.
Kourouk, j'aime bien. Danser le ska.
Le jeune homme, il pourrait être notre fils. Ouais,
ah, bah là, moi, quand j'aurai 45 ans, vous serez plus là, tout ça.
La vérité, c'est qu'il a complètement raison.
Oui, c'est pas ça.
Et Greg, vous lui avez quand même répondu après.
Écoute-moi bien, Tite.
Salière.
Salière, bien sûr. En face d'Adrien, Alicia, qui en ce moment, avec les photos postées à l'écran, galère un peu, hein.
Vous parliez de sa tenue.
Oui.
On va y jeter un œil.
Bien sûr.
Donc ce tweet, Jules Koundé arrive à Clairefontaine. Il y a Thomas Coste qui demande s'il peut récupérer ses bottes. Ah, c'est dommage.
C'est dommage parce qu'on voit pas les bottes.
Alicia qui est en plus à côté de Karim.
Je suis stressé. Non, oui, il nous a mis la pression d'entrée.
Eh bien, déo, Alicia, s'il vous plaît, parce que là.
Non, non, ça marche.
C'est Bruno Salo.
On passe à vous, Greg. Vous êtes un grand monsieur de l'humour, l'humour basque.
L'arbitre, mais c'est dinguerie.
Arrêtez de me dire qu'on a. C'est mais dingue. Ça, c'est votre truc.
Non, mais
pour
ça,
une phrase,
non,
mais ça, on n'en parle jamais. Ça fait 10 minutes qu'on est sur le dossier, on en a parlé.
Le sujet sur.
Après,
il est baïonné. Il est baïonné. On pourrait
être baïonné. Je crois qu'il était bien haut.
Mais
sur cette humour-là.
Ça, c'est ça. Et on termine avec France Piron qui a eu un souci pour présenter une chroniqueuse cet après-midi.
Ah bon.
Je sais pas quel est le niveau de notre prochaine recrue parce qu'il faut remplacer nos skieurs. C'est vrai que pas un cul journaliste.
Pas un cul. La cul, ma tête est malade.
Pardon, c'est fantastique. Ça joue à une lettre et puis c'est pas du tout la même signification.
Et puis derrière, évidemment, c'est la porte ouverte à toutes les
stades.
Allez, vraiment, pour où tu veux. Salut Antoine, merci pour ce replay. Bonne soirée Antoine, c'est le relais olympique. Antoine s'en va, Messaoud fait son entrée. Messaoud Ben Terki pour cette soirée barrage 2025. Bonsoir Messaoud. Encore une soirée à suspense. On va savoir génial. Contre qui on va jouer aussi. Hein.
Le Pays de Galles ou la Pologne. Vous préférez qui? Vous avez dit tout à l'heure.
Arrêtez Ludo.
Bah, Pays de Galles. Voilà, Ludo. Ah, le Pays de Galles, ça va être fantastique à Cardiff City.
Il est en feu.
et puis l'Ukraine, c'est quand même une histoire assez extraordinaire. Ouais. L'Ukraine face à la Finlande en Pologne, mais le stade sera plein, 40 000 personnes pour accompagner peut-être l'Ukraine à une qualification. Hein. Ukraine-Islande, oui. Ukraine-Islande, Greg. Et puis on surveille ce qui se passe pour la Géorgie. Est-ce que la Géorgie de Willy Sagnol va se qualifier pour la première fois de son histoire? Il reste 2 minutes. Eh ben, ça veut dire tir au but, le multiplex, on va le commencer par les tirs au but. Voilà.
Tir au but sur le multiplex.
Ça va vite partir.
soirée multiplex, mais moi, vous savez la tradition dans l'émission, c'est aussi de vous demander vos pronostics. On peut se mettre en double fenêtre ou comment on fait? Ou on les fait? Moi, je propose qu'on reste sur le match et que vous disiez à haute voix votre pronostic sur le France-Chili, mais on reste sur le direct avec ce match entre la Géorgie et la Grèce. Alicia Dobby, France-Chili.
2-0 pour la France, but de Mbappé de Randal Kolo Muani. Oui,
Olivier Mossard.
J'ai un 3-0 pour la France.
Ça ne sert à rien de montrer l'ardoise. Ils ont la mis en bas, bravo. Hein, bravo la double fenêtre, autant pour moi. Benoît Tremolinas.
3-1 pour la France.
Laurie Delostal.
2-0 pour la France.
Ludo Bragnac.
De partout.
Et Adrien.
4-0.
4-0 pour la France. Mais ça vous, bonne soirée sur la chaîne.
Merci, on surveille tout ça.
Géorgie-Grèce, on va savoir les tirs au but à suivre. Et puis on aura l'adversaire de la France à l'Euro. Bonne soirée des barrages 2025 sur la chaîne Équipe, l'équipe du soir dans la foulée. Et nous, on revient demain 18h30. Ciao, bonne soirée foot avec Metz.